Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Foot.
Christophe Cessieux.
Bonsoir à tous. C'est un jour de classique sur tous les terrains européens, avec évidemment Paris Saint-Germain OM ce soir 20h45. On en parle dans un instant avec Jeannot Séguier, mais également le Classico en Espagne où le Real pour l'instant domine le Barça. Et puis tout à l'heure en Angleterre, nous assisterons au match entre Liverpool et Manchester City. On va se régaler tout au long de cette fin d'après-midi et dans la soirée. Ce sera donc à vivre dans quelques instants sur RMC. Auparavant, il est 17h passé 10 minutes. Et avant le coup d'envoi de Monaco, Clermont, ben oui, il y a aussi de la Ligue 1 avant le classique de ce soir. Les infos avec Laurent Sègre. Bonjour Laurent.
Bonjour Christophe, bonjour à tous. 140 000 manifestants à Paris, si l'on en croit les organisateurs de la marche contre la vie chère et l'inaction climatique. Jean-Luc Mélenchon la voit comme le premier jour d'un nouveau front populaire. Parmi les participants à cette marche, la prix Nobel de littérature, Annie Ernaux. Peu de perturbations à la RATP ce mardi, malgré la grève, trafic quasi normal dans le métro et pour les trams. Il y aura 3 rames sur 4 pour le RER A et B. Enfin, 2 bus sur 3 à la RATP. L'émotion ne faiblit pas dans le 19e arrondissement de Paris après la découverte du corps d'une jeune adolescente de 12 ans dans une malle devant son immeuble. 4 personnes sont toujours en garde à vue, dont une jeune femme qui manipulait cette malle. Plusieurs témoins l'ont aperçue comme cet habitant.
On ne savait pas c'était quoi, on a vu une fille avec une malle. On l'a vu rentrer au début dans l'immeuble, elle était toute seule. Après, elle est ressortie un peu plus loin. On l'a vu une demi-heure après avec des malles devant le café, elle parlait un peu avec tout le monde. Bon, elle avait l'air un peu fofolle, une vingtaine d'années, maquillée de partout. La malle, elle a laissé par terre, elle a laissé devant le café. À un moment, elle est rentrée, elle faisait des allers-retours. Donc tout le monde se demandait ce qu'il y avait dans la malle, tout le monde était interrogatif. Jamais de notre vie, on aurait pu penser qu'il y avait un corps, ou sinon on l'aurait interpellé immédiatement.
Un policier est déféré devant le juge d'instruction pour avoir tué un automobiliste vendredi soir à Paris après un refus d'obtempérer. Il risque une mise en examen. Le second policier a lui été libéré. 30 degrés cet après-midi sur la côte basque. La vague de chaleur s'amplifie dans le sud-ouest. Elle va encore durer plusieurs jours. On relevait aussi à 15h plus de 27 degrés à Clermont-Ferrand et à Vichy. RMC 17h03. Dans un court instant, votre intégral foot avec Christophe Cessieux.
RMC Intégral Foot Ligue 1.
Christophe Cessieux.
17h03 sur RMC. Quelle belle fin d'après-midi, quelle belle soirée nous allons vivre sur RMC. Vous qui êtes passionné de ballon, passionné de foot, vous allez vous régaler. On se régale déjà depuis le début de l'après-midi avec notamment un étonnant Rennes-Lyon qui a vu la victoire des Rennais. Dans un instant, le coup d'envoi de Monaco-Clermont. On va vivre ce match avec Valentin Jamin et Maxime Thiep. Messieurs, vous avez intérêt à envoyer parce que là, il y a du lourd autour de vous. Hein.
Salut, on a la pression. Bonjour messieurs, bonjour à tous.
Bonjour à tous. On sera à la hauteur, pas de soucis, ouais. C'est promis.
J'espère que les acteurs aussi seront à la hauteur, parce que vous c'est bien.
Mais ça dépend un peu moins de nous, ça.
Monaco-Clermont, match intéressant pour les Monégasques qui doivent se remettre de leur désillusion et de leur déculotté en Ligue Europa cette semaine. Hein,
tout à fait, hein, 4-0, la claque reçue sur la pelouse de Trabzonspor. Mais les Monégasques restent sur une belle série en Ligue 1, 5 victoires consécutives. Ils ont vu les Rennais leur passer devant là à l'instant avec cette victoire face à Lyon. Et bien les Monégasques là peuvent enchaîner peut-être avec un 6e succès consécutif.
Ouais, alors que Clermont se présente un petit peu masqué, on en parlait en avant-match, mais c'est vrai que Clermont est dans la première partie du classement. Clermont est 8e de Ligue 1. Clermont reste sur 2 succès en Ligue 1 et pourquoi pas venir embêter ici à Louis II l'AS Monaco, les Clermontois en bleu marine qui donneront dans quelques secondes le coup d'envoi face à Monaco de ce match arbitré par Rudy Buquet sous un magnifique soleil. Ici c'est encore un petit peu l'été presque qui se prolonge sur le rocher. Le stade n'est pas plein, mais il y a quand même un petit peu de monde. Et donc c'est Andrić qui donne à l'instant le coup d'envoi pour les Monégasques de cette rencontre avec le premier ballon en retrait, avec la charnière maintenant. Vitesca, on fait circuler du côté de Clermont et on va passer avec Coffrier, Mohamed Cham pour essayer de garder cette première possession.
Messieurs, on va voir une autre équipe monégasque qui est en déplacement à Paris, à Roland-Garros sur le central, de Roland-Garros évidemment. C'est le match entre Paris Basket et Monaco. Clément Brossard, ce sont les dernières secondes, les toutes dernières secondes.
Ouais, salut Christophe, salut à tous. C'est exactement 2 secondes 7, remise en jeu. Mike James et les Monégasques ont été en grande difficulté. Ils vont certainement s'imposer. Ils mènent 95-91. Et voilà le dernier ballon et la fin de cette rencontre. Victoire Monégasque, leader du championnat, seul leader désormais du championnat après 5 journées. Victoire 95-91 face à la lanterne rouge parisienne. En tout cas, on ne pouvait pas rêver. Meilleur suspense, meilleur spectacle, ouais, pour ce match. Le premier du monde, depuis 74 ans.
C'est une belle arène pour jouer au basket. Clément. Hein.
Exactement, il y avait 10 000 personnes, on voyait que des sourires, des gens qui, pour avoir échangé avec certains, venaient pour la première fois à Roland-Garros pour voir du basket et se sont dit, eh bien l'été prochain c'est sûr, je viendrai à Roland-Garros pour voir du tennis.
La dernière fois c'était en 1948 qu'il y a eu des baskets, donc effectivement.
74 ans et c'était sur de la terre battue et avec, enfin sans toi pour le coup, c'était vraiment...
Ah non, même Jeannot et moi on n'était pas là encore, hein, en 1948.
Personne n'était là, en tout cas le spectacle était au rendez-vous aujourd'hui, la victoire appartient aux plus opiniâtres, c'est ce qu'il a écrit sur les tribunes de cette salle ou de ce cours, Philippe Châtrier. Eh bien Paris aura été opiniâtre aujourd'hui, mais pas assez puisque c'est la victoire du leader monégasque, 95-91.
Très bien, merci Clément, bonne fin d'après-midi. Monaco qui s'impose à Paris et Monaco qui va tenter de s'imposer face à Clermont. Les autres matchs, vous le savez, le programme est magnifique en cette fin d'après-midi ce soir, également avec le classique du championnat entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, on en parle dans un instant avec Jeannot, avec coach également qui nous a rejoint, il ne sait plus où donner de la tête et des yeux, mon Roland, avec tous ces matchs.
Déjà, bonjour à tous.
Bon, on va se régaler. Si tu avais un match à choisir, tu choisirais lequel là ? Real-Barça, Monaco-Clermont, PSG-OM, Liverpool-Manchester. Ah d'accord, monsieur très anglais. Ok, eh ben, on va en parler de ce match dans quelques instants. Jeannot Rességuet également à nos côtés.
Salut tout le monde.
Avant de partir au parc.
Salut, oui.
Ah, il y a une effervescence hein, ce soir. Hein,
ça,
ah,
il a une saveur particulière. Pour une fois, tout se passe au bout du classement. Quoi.
Le choc donc entre Paris et Marseille, on en parle dans un instant. Il est 17h07 sur RMC. Monaco 0, Clermont 0 pour l'instant. Le reste des matchs est à suivre dans un instant. Je vous rappelle que le Real mène 2-0 à la mi-temps face au Barça. A tout de suite.
RMC Intégral Foot Ligue 1.
Christophe Cécile.
Nous serons sur RMC. Magnifique fin d'après-midi et belle soirée à venir évidemment sur l'antenne d'RMC pour tous les passionnés de ballon avec ce dimanche de classique. Le classique en Espagne, c'est la mi-temps au Santiago Bernabéu où le Real mène 2-0 face au Barça. À 17h30, la rencontre de Première Ligue entre Liverpool et Manchester City. Et puis ce soir, à 20h45 au Parc des Princes, Paris Saint-Germain, Marseille. On va évoquer ce match dans un instant avec Jeannot. Le temps quand même d'aller faire un tour à Monaco, Stade Louis II, avec une belle fin d'après-midi sur la Côte d'Azur. Maxime Thillette, Valentin Jamin.
Tout
le match
à
a débuté il y a 7 minutes.
Une fin d'après-midi ensoleillée, 8e minute de jeu, Monaco 0, Clermont 0. Mais les Clermontois sont venus avec de belles intentions hein, sur ce début de rencontre. Ils se sont déjà projetés plusieurs fois et ont failli même ouvrir le score, ou du moins ils se sont procurés la première vraie situation de but.
Et notamment avec El Bassal Rachani hein, qui est aligné dans le couloir droit, qui a débordé tout à l'heure le centre dans la surface au second poteau qui a été repris par Andrić, ça a été contré par un Monégasque et à l'instant c'est Neto Borges côté gauche qui a réussi à déborder encore une fois la défense de l'AS Monaco, donc pas impérial en ce début de match mais pour l'instant pas de grand danger non plus sur le but d'Alexander Nümel. Donc 8 minutes de jeu messieurs, 0-0 à Louis II entre l'ASM et Clermont.
Monaco impérial en Ligue 1, Roland, mais qui a connu un sacré couac quand même cette semaine en Coupe d'Europe. Oui. Il faut réussir à l'oublier, notamment pour le gardien Monégasque.
Surtout hein. Ils ont reçu un coup de fil depuis Nantes. Donc ils ont fait pareil les Nantais, ils ont gagné 4-1 après contre Brest. Donc ils vont essayer de faire pareil.
Eh ben on va voir s'ils sont capables de faire pareil face à une équipe de Clermont qui est quand même assez surprenante quand même depuis le début de la saison, qui reste sur deux victoires consécutives. Les Auvergnats sont là, bien installés. C'est la mi-temps à Bernabéu, toujours 2-0 pour le Real. On retrouvera dans un instant Johan Bredov. Mais vous le savez, ce soir, le choc en France, ce sera donc ce classique entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Jeannot Rességuet sera au commentaire, non pas au sifflet, au commentaire ce soir.
Avec
Fabrice Hockitt. L'after se fera d'ailleurs en direct du parc ce soir.
Ah bah oui,
on met les petits plats dans les grands quand même, hein, parce que c'est un magnifique classique. Alors évidemment, c'est un match toujours exceptionnel, mais peut-être encore un peu plus cette saison, cette année, Jeannot, parce que Marseille est là, talonne le Paris Saint-Germain et tous les supporters de l'Olympique de Marseille se disent qu'il y a peut-être un coup à faire. Évidemment, c'est plus facile à dire avant qu'après. Hein.
Et ce soir, ils auraient pu être à égalité de points, 26 points chacun, si Marseille n'avait pas chuté au Vélodrome face à Ajaccio samedi dernier. 23 points, 26 points pour le Paris Saint-Germain accroché face à Reims, et puis Lorient hier accroché par Reims qui revient à hauteur du Paris Saint-Germain. Donc oui, effectivement, c'est en haut que ça se passe, en haut du classement de la Ligue 1. Et j'ai bien aimé d'ailleurs l'expression employée par Jérôme Rotten. Marseille peut regarder en ce moment Paris dans les yeux parce qu'on a le sentiment que Paris qui est sur 3 matchs nuls consécutifs, ça faisait quand même un moment que c'était pas arrivé que Paris enchaîne 3 matchs nuls, c'était en tout cas au printemps dernier en Ligue 1 et ils sont dans le dur. dans la globalité, ce 0-0 contre Reims, encadré par deux matchs nuls un partout face à Benfica en Ligue des Champions. Ils doivent retrouver le goût de la victoire, les Parisiens. Ils ont donc la pression, alors que de l'autre côté, il y a une certaine zénitude, pour reprendre une expression employée par nos confrères de la Provence dans la présentation du match, et notamment sur la conférence de presse d'Igor Tudor. Il y a une semaine, ils avaient pris un coup derrière la tête, un coup d'arrêt, avait dit d'ailleurs Dimitri Payet, qui avait marqué à l'occasion son 100e but en Ligue 1. Il se rattrape derrière en s'imposant au Sporting, alors dans des conditions, encore une fois, avec deux joueurs là expulsés cette fois-ci pour les Lisboètes. Et bon, après, tu te retrouves avec une équipe de Marseille qui va venir au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes plutôt, sans pression particulière, et avec la volonté d'un côté de rester dans le même système de jeu, le 3-4-2-1, alors qu'en face, avec la suspension de Sergio Ramos, avec toujours les blessures de Kimpembe et de Nuno Mendes, eh bien Christophe Galtier, pour la première fois, va modifier son animation et passer en 4-3-3.
Alors tu dis Marseille sans pression, coach, quand on vient à Paris, au Parc des Princes, qu'on s'appelle l'Olympique de Marseille, il y a toujours quand même une petite forme de pression, la volonté de bien faire face à cette équipe qui est tellement redoutable et redoutée qu'est le Paris Saint-Germain.
Il y a la différence entre un match angoissant, ce qui n'est pas le cas pour l'Olympique de Marseille, et un match passionnant, ce qui est le cas. Le match, il est angoissant pour Paris. Après les trois nuls que Jeannot vient de nous rappeler, il y a une des deux équipes qui est tout simplement dans l'interdiction de perdre, c'est pas l'OM, c'est le Paris Saint-Germain. Et dans ce contexte-là, changer de système, alors que justement, tu as deux de tes arrières centraux qui ne sont pas disponibles, et on parle de 4-3-3. Oui, 4-3-3, mais le 4-3-3, il y en a 10 de différents de 4-3-3. Savoir qui va faire quoi, ça on va le découvrir. Tu me dirais là maintenant comment je vois le milieu de terrain disposé du Paris Saint-Germain. J'en sais rien. J'attends avec impatience de voir ça. Est-ce que ça va pas être plutôt un 4-2-3-1? Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. L'utilisation d'Mbappé, ça va être quoi? En pointe ou sur le côté gauche? On ne sait pas non plus, pourtant c'est un 4-3-3.
Bon, Roland, est-ce que tu penses les Marseillais capables de réaliser un coup ce soir au Parc des Princes? Sachant que, alors Jeannot a évoqué la situation sportive, mais il n'y a pas que la situation sportive. À Paris, cette semaine, on a beaucoup parlé, il y a eu des rumeurs, il y a eu des infos.
De l'extra-sportif.
De l'extra-sportif. Est-ce que l'extra-sportif peut avoir une conséquence sur le sportif ce soir? Est-ce que les Marseillais peuvent en profiter?
Si tu veux, c'est obligatoire qu'avec tout ce qui se passe depuis plusieurs jours, tu puisses être quand même un petit peu déconcentré dans les discussions qu'il peut y avoir entre joueurs et staff. C'est sûr que c'est pas la période. On le voit dans une conférence de presse, voir un Galtier se plaindre de ne parler de football que pendant 1 minute 30. C'est sûr que ça peut perturber. Mais bon, il y a suffisamment de talent, il y a suffisamment de grands joueurs et de grands joueurs de très très haut niveau, avec des salaires aussi de très très haut niveau, pour pouvoir se concentrer et faire un gros match. Moi, si je sélectionnais deux points d'interrogation, c'est les deux arrières centraux de Paris Saint-Germain et les trois arrières centraux de l'Olympique de Marseille. Si l'Olympique de Marseille arrive à répondre aux trois joueurs monstrueux du trio offensif de Paris Saint-Germain, et notamment Mbappé. Je te donne un exemple, un duel Mbappé-Balerdi, on peut être quand même angoissé, tu vois. Et donc, si on arrive à régler ce problème-là, là, à ce moment-là, Paris Saint-Germain peut avoir du souci à se faire.
Les trois phénomènes, on le rappelle, parce que Messi revient à la compétition avec Neymar. Donc
c'était Messi en grande forme.
Messi qui va retrouver Alexis Sanchez, ils se connaissent bien ces deux-là.
Ils ont joué ensemble entre 2011 et 2014 au Barça. Alexis Sanchez, lui, avec le Barça, il avait provoqué un péno transformé par Xavi. Il y avait eu un 2-partout en 2013, c'était face au Paris Saint-Germain. Et en 2016, avec Arsenal, il y avait eu un partout et il avait été buteur. Donc il connaît le Parc des Princes.
Les Marseillais qui sont arrivés à Paris seulement aujourd'hui, ils n'ont pas dormi dans la capitale hier soir.
On évite les perturbations. Voilà. Non, mais c'est vrai que ça c'est arrivé historiquement par le passé assez souvent. Il n'y aura pas de supporters marseillais non plus, interdit de déplacement. Donc voilà, une soirée où le stade de Parc des Princes va être acquis, bien évidemment, à la cause. nombreuses des Parisiens. Bon, il y aura certainement quelques fans de l'Olympique de Marseille, mais il faudra qu'ils soient discrets dans le stade. Mais de notre côté, ça reste, alors on l'a toujours dit, par rapport aux supporters et plus pour les supporters, un rendez-vous incontournable, qu'ils soient parisiens ou qu'ils soient marseillais. Mais il y a quand même ce soir un enjeu sportif qui est intéressant et qui va nous donner un petit peu, en tout cas on l'espère, un petit peu de piment supplémentaire. Moi, je me rappelle de celui qui avait eu lieu après la Covid, dans une jauge un peu particulière, le 13 septembre 2020, une victoire marseillaise.
Oui, Marseille était venu gagner.
Et pourtant, Marseille avait souffert, Mandanda avait été héroïque, il y avait une frappe sur le poteau, quatre arrêts déterminants.
Comme quoi, ce but de Tova.
Voilà, donc quelque part, ça va être une soirée un peu spéciale. Et j'espère surtout que d'un côté comme de l'autre, au-delà de la pression, de la tension qu'évoquait à l'instant coach Courbis, et de l'esprit un peu libéré des Marseillais, mais avec l'envie qu'a encore une fois démontré en conférence de presse Igor Tudor. J'espère qu'il sera pour lui et pour les supporters marseillais suivi par son groupe, puisqu'apparemment au niveau de la compo, ça devrait être les mêmes qui ont débuté le match contre le Sporting à Lisbonne. Que ces acteurs-là nous offrent quelque chose de grand ce soir, parce que parfois on peut être déçu.
Et carton rouge à Monaco.
Ouais.
Carton rouge sorti par Rudy Buquet pour Mohamed Camara, le milieu malien qui est surpris là. Ça a un peu surpris tout le monde. On s'attendait plutôt à avoir un jaune.
On peut être expulsé après 16 minutes sur cette intervention.
Bah là, l'intervention, alors certes, il y a faute sur Saïf Eddine Kaoui qui avait récupéré le ballon, qui lançait une contre-attaque. Il y a quand même une grosse semelle sur la cheville. La cheville qui a peut-être même un petit peu bougé, mais ouais, le geste n'est pas très beau. C'est sans doute involontaire, les courses qui se sont un petit peu croisées. Et la faute n'est pas belle. Le rouge semble finalement mérité. En tout cas, il lui appuie bien sur la cheville. On a entendu le cri strident de Kaoui qui a un petit peu transpercé le stade Louis II. Rudy Buquet n'a pas hésité. En tout cas, il a mis rouge directement. On rappelle qu'il y a évidemment possibilité d'avoir recours à l'arbitrage vidéo. En tout cas, si c'est confirmé, ça va faire 75 minutes à jouer en infériorité numérique pour l'AS Monaco. Ça va être long. Pour l'instant, 0-0 entre l'ASM et Clermont.
Très bien. Donc, 11 Clermontois face à 10 Monégasques. Et ce soir, 11 Parisiens face à 11 Marseillais. Et un Jeannot au commentaire. Un Jeannot qui va pouvoir faire des vocalises avant le match de ce soir. Tu échauffes la voix un peu
jamais,
ce genre de mal
jamais. Sur les gros événements quand tu enchaînes les matchs, petites méthodes,
un peu de miel le soir avant de se coucher,
des bruits un peu particuliers sous la douche,
une petite caméra là.
Tu chantes des trucs qu'on t'apprend comme ça au fil des années. Non là ça va, écoute, la voix est plutôt bien posée, donc on va tenter de s'enflammer ce soir avec les 22 acteurs.
Régalez-nous ce soir et on suivra ça évidemment. 20h45 pour le coup d'envoi de ce Paris Saint-Germain-Marseille. Pour l'occasion, tout RMC se délocalise, l'after en direct du Parc des Princes, des moyens incroyables, phénoménaux, immenses, donc pour suivre ce classique ce soir. 17h23, Monaco Clermont 0-0. On va aller faire un tour à Santiago Bernabéu avec Johan Bredov pour le classico, là c'est le vrai classico entre le Real et le Barça, mais pour l'instant il n'y a pas photo, Johan, avec des Madrilènes qui mènent 2-0. Premier but signé Karim Benzema.
Exactement, salut Christophe, salut coach, salut à tous. Ouais, signé Karim Benzema à la 12e minute de jeu, ça allait assez vite pour le Français qui a profité du bon travail de Vinicius et qui a repris cliniquement du pied gauche pour conclure. 1-0 puis 2-0 grâce à Valverde à la 35e. Le Real Madrid qui domine de la tête et des épaules ce classico, alors que c'était un choc entre les deux leaders qui étaient invaincus. Barcelone n'avait pris qu'un seul but depuis le début de saison en Liga. C'est plus compliqué en Ligue des Champions, on l'a vu cette semaine avec ce 3 partout, une quasi-élimination donc dès la phase de groupe. Et la semaine compliquée qui continue, et Barcelone menait 2-0 donc au Santiago Bernabéu par le Real Madrid à la 50e minute de jeu.
Alors on sait que demain sera dévoilé le nom du Ballon d'Or. Et là c'est vrai que même si évidemment le vote est clos et que tout est déjà fait, Roland, mais ça ne fait qu'appuyer les pronostics qui font de Benzema le futur Ballon d'Or, hein, avec en plus ce plus important.
Je pense que pour ce Ballon d'Or que j'aime pas particulièrement, il y a pas de suspense du tout. Non, évidemment qu'on se retrouvera pas.
Et la frappe de Benzema, justement, le doublé du Français. On va surveiller s'il n'était pas hors jeu au départ de l'action, mais il a marqué encore une fois du pied gauche, frappe enroulée. Alors le drapeau s'est levé, on va surveiller ça. Mais puis au moment de ton intervention, coach Karim Benzema qui s'illustre une nouvelle fois, 52e minute de jeu pour l'instant, 3-0 pour le Real Madrid. Mais on va surveiller sur cette passe de Vinicius Junior. Il me semble qu'il est en position de hors jeu, Karim Benzema, mais ça va jouer.
ça va jouer à peu de choses. Mais qu'est-ce qu'il est beau ce geste, cette frappe enroulée pied gauche. Ter Stegen trop court. En tout cas, on surveille ça. Mais voilà, un grand Karim Benzema cet après-midi au Santiago Bernabéu. Et le but est refusé. Toujours 2-0 pour le Real Madrid. Mais voilà, bah, il voulait illustrer un petit peu ce que tu disais, coach.
Ouais. Pour Benzema qui est en forme cet après-midi. Donc toujours 2-0 pour le Real.
Je disais que là, on ne va pas se retrouver demain dans la même situation qu'on a pu se retrouver avec Ribéry.
Oui,
non, il n'y aura plus aucune surprise.
Bah, quand tu joues au Real, tu es de toute façon quasiment assuré d'avoir le ballon d'or, ou presque. Ou alors il faut jouer au Barça. Mauvaise langue. De toute façon, il a fait une saison extraordinaire.
La saison de Karim, elle est
juste récompense de voir sacré meilleur joueur de la planète pour cette saison. Aïe, aïe, aïe. Les affaires monégasques mal embarquées, Maxime et Valentin, après l'expulsion d'un de leurs joueurs, ils voient la sortie de Ben Yedder qui vient de sortir sur blessure.
Blessure, messieurs.
Du coup, on s'organise. Oui, voilà. On fait rentrer un milieu de terrain à la place.
Deux attaquants, ils gardent le plus costaud.
C'est ça. Et il fait rentrer également Crépin Diatta à la place de Minamino. Crépin Diatta qui a plus un profil travailleur et qui est plus dans l'effort défensif dans le couloir droit. Et donc, c'est malheureusement le capitaine Moussa Benedia qui en fait les frais.
Il est tellement déçu que je me suis dit, là, il est
blessé. Quand il a compris qu'il sortait, il a écarté les bras un petit peu dépité, il est sorti tête basse et longue explication avec Philippe Clément. Pas d'animosité, mais voilà, il s'est expliqué. Le coach Ben Yedder a eu l'air de dire bon, je comprends, mais je suis déçu. Il a mis un coup de pied derrière sur le banc.
T'imagines que Galtier passe à Mbappé.
Mais en tout cas, c'est pas la première fois que ça lui arrive à Ben Yedder de sortir pour les mêmes raisons suite à un carton rouge.
Ouais,
c'est d'ailleurs déjà le quatrième rouge à domicile
même très
de la
souvent,
saison.
Il est sorti avant que le match commence.
Ouais, mais là, il avait quand même retrouvé une place de titulaire à part entière.
Très performant,
plus de titulaire efficace.
Ouais, effectivement. Donc 0-0, mais les Monégas se réduisent à 10 face à 11 Clermontois et qui ont donc perdu leur buteur vedette et capitaine Ben Yedder qui vient de sortir. Il est 17h26, il se passe plein de choses évidemment sur les terrains de France et d'Europe ce soir, cet après-midi. Dans un instant, nous repartons au Bernabéu, toujours 2-0 pour le Real face au Barça, et puis nous allons également aller faire un tour en Angleterre. Là aussi, c'est un dimanche de classique, ce classique entre Liverpool et Manchester City. Salim Bangali va tout nous dire de cette rencontre qui débute dans 3 minutes.
RMC, Intégral Foot Liga.
Christophe Cessier.
17h31 sur RMC, toujours 2-0 pour le Real face au Barça. 58 minutes de jeu, toujours 0-0 entre Monaco et Clermont. Un autre match débute à l'instant même, c'est à Anfield que ça se passe. Le classique anglais entre Liverpool et Manchester City. Salim Bangali est avec nous. Salut Salim.
Salut Christophe, bonjour à toutes et à tous.
Tout le monde avait coché évidemment ce match au moment où le calendrier a été dévoilé. Tout le monde s'attendait à une rencontre entre les deux meilleures équipes d'Angleterre. Mais... si Manchester City a confirmé, c'est plus compliqué pour Liverpool qui a la pression cet après-midi sur son terrain face au diable de Manchester City, et notamment à Erling Haaland qu'on attend évidemment une nouvelle fois énorme, hein, Salim.
Absolument, vous l'avez dit, le classique de ces dernières saisons en tout cas, hein, puisque sur les 4 dernières saisons, 3 l'ont été et ont été obtenus par City, 1 par Liverpool, avec Liverpool qui a fini deux fois dauphin des Sky Blues avec un point de retard à chaque fois. Mais c'est vrai qu'en cette saison, c'est beaucoup plus délicat. Le City qui est deuxième, qui est juste derrière Arsenal, quand Liverpool est 11e et même 12e en fait avant le début de cette rencontre, puisque tout à l'heure West Ham est passé devant les Reds. C'est dire l'écart qui existe aujourd'hui entre les deux. D'ailleurs, avant le début de cette journée, pour bien visualiser, il y a 13 points d'écart entre City et Liverpool, et ce après 9 journées. C'est un gouffre colossal. Pourtant, et pour une fois, il faut aussi le noter, Liverpool a bien démarré cette rencontre, en tout cas en mettant tout de suite la pression sur cette équipe de City où les cadres sont présents. Vous l'avez dit, Erling Haaland, évidemment le Norvégien est là, Bernardo Silva, Phil Foden, Kevin De Bruyne sont présents. De l'autre côté, la ligne d'attaque est sympa aussi, Salah, Firmino, Jota. On rappelle que notamment Luis Diaz, le Colombien, le super attaquant colombien, est blessé pour de très nombreuses semaines. Mais le duel qu'on attend beaucoup, c'est Erling Haaland face à Virgil van Dijk, puisque actuellement c'est le cousin de Virgil van Dijk qui joue. Non, pas le néerlandais, le meilleur, l'un des meilleurs défenseurs, puisqu'il est tellement en dessous de son niveau actuellement, et ça peut faire peur à la défense de Liverpool. Quand je vous rappelle, Haaland a marqué 15 buts en 9 matchs de championnat.
Ah, il est énorme. Roland, tu me disais, on en parlait il y a quelques instants, le problème avec City, c'est que évidemment il va être très surveillé, Haaland, mais il y en a d'autres, il y en a des monstres à côté de lui.
Il est plus compliqué que ça. Si c'était uniquement de mettre un plan anti-Haaland, je ne dis pas que ça serait facile, mais ça serait possible. Mais si en plus de ça, il y a 2-3 joueurs de ton équipe qui s'occupent particulièrement d'Alland pour essayer de le prendre en tenaille. Les autres qui sont monstrueux aussi, les
Fondens. Et pénalty à Monaco. Pénalty à Louis II, coach, excuse-moi. Et il est obtenu par Brel Embolo, les Monégasques qui, depuis leur carton rouge reçu il y a une dizaine de minutes, eh bien, sont beaucoup mieux dans cette rencontre face à des Clermontois qui ont reculé. Et là, Brel Embolo qui est dos au but en pivot, qui parvient à garder le ballon. Et c'est Johan Manin qui arrive avec trop d'engagement derrière lui pour essayer d'intercepter le cuir et qui prend le mollet de l'attaquant suisse. On comprend pourquoi il est resté sur la pelouse, hein, Brel Embolo.
Exactement, on en parlait, coach. On rappelle que Wissam Ben Yedder est sorti pour une réorganisation tactique, d'ailleurs tout comme Minamino, puisque Mohamed Camara a été exclu milieu de terrain pour l'AS Monaco. Et donc typiquement, hein, du Brel Embolo, le Suisse qui est au but, qui conserve et qui voit son pied d'appui se dérober après un contact avec Johan Manin. Caio Henrique est en train de boire, de se rafraîchir, alors que Brel Embolo, le Suisse,
si tu regardes cette image là je pense qu'il y aura une petite compensation par rapport à la sortie, mais il n'y a pas grand chose. Pour ne pas dire, il n'y a rien du tout.
Bon, le pied, en tout cas, semblait touché, mais oui, c'est vrai que...
Si ce sont des choses comme ça, chaque fois que tu touches, qu'il y a un défenseur et un attaquant qui se touchent, il y a pénalty, il va y en avoir 12 par match.
Celui-là est confirmé, en tout cas, pas de vidéo. Et donc, Maxime, Brel Embolo va s'élancer face à Maurizio.
Brel Embolo, qui a déjà marqué 4 fois cette saison en Ligue 1 sous les couleurs de l'AS Monaco, l'attaquant suisse arrivé cet été, qui apporte beaucoup de choses, hein, sur le plan offensif, qui plaît beaucoup à Philippe Clément, qui a d'ailleurs préféré le laisser sur le terrain au détriment de son capitaine Wissam Ben Yedder. Brel Embolo qui se présente face à Maurizio pour ouvrir le score avec l'AS Monaco face à Clermont. 30e minute de jeu, le pied droit de Embolo, l'arrêt de Maurizio et Embolo qui suit, qui conclut en deux temps, ouverture du score de l'AS Monaco. Il s'est fait peur, Brel Embolo, son pénalty n'était pas très bien tiré, mais pas capté par Maurizio. Embolo conclut derrière.
Ah oui, ça c'est frustrant pour un gardien, hein, quand il arrête un pénalty et de voir effectivement le tireur de pénalty qui suit bien et qui met le ballon au fond. Et donc un but à 0 pour Monaco avec ce pénalty. Monaco à 10 contre 11, Clermontois, mais qui mène dorénavant au score. 17h36 sur RMC, on fait le tour des classiques du championnat, des championnats européens. On part tout de suite à Madrid qui reçoit le Barça. Johan Bredo, où en est-on?
Toujours 2-0 pour le Real Madrid face au FC Barcelone à la 63e minute de jeu. Les buteurs, je vous les rappelle, Karim Benzema notamment à la 12e, son 4e but de la saison, et Federico Valverde pour doubler la mise à 35e. Et justement, Karim Benzema qui va essayer de trouver dans la profondeur Vinicius. On était dans la surface de réparation, il y aura une faute sur Marc-André Ter Stegen, donc du Brésilien. Barcelone qui va pouvoir se dégager, mais 2-0, et c'est assez logique, hein, tant le Real domine cette partie, donc face à un Barcelone qui a beaucoup de mal ces derniers temps, avec notamment ses contre-performances en Ligue des Champions. Et là, le Real Madrid qui est en train de prendre la tête de la Liga avec 3 points d'avance.
Ce Valverde, qui est un de mes joueurs préférés dans notre époque, là, il a encore marqué un but. Bon, je ne dis pas que c'est un but décisif, mais presque.
5 buts cette saison pour Valverde, qui joue souvent d'ailleurs ailier droit, hein. Normalement il est milieu de terrain, là il joue un petit peu plus offensif, et ça fonctionne. C'est l'idée de Carlo Ancelotti, ça fonctionne en ce début de saison. Il a pris la place de Rodrigo, et voilà, il permet à son équipe de mener 2-0 à la 65e minute de jeu face à Barcelone dans le Classico.
Et on rappelle que les deux formations, les deux grands d'Espagne, étaient jusqu'à présent invaincus et à égalité de points en tête du championnat, 22 points chacun. C'est Barcelone qui dominait en raison d'un meilleur golavrage. Qu'en est-il de Liverpool-Manchester City, match qui a débuté il y a 7 minutes, Salim Mangali?
Et donc toujours 0-0 entre les Reds et les Sky Blues, des Sky Blues qui jouent avec leur maillot sœur de jaune et noir. Et d'ailleurs, ça a fait polémique en Angleterre. Comment est-ce que pour un match d'un tel acabit, ils ne jouent pas avec leur maillot bleu alors que d'habitude ils le font? Là, ce n'est pas le cas. Ils ont voulu mettre en avant leur sœur.
C'est pour vendre des maillots, ça, mon bon monsieur.
Voilà, exactement. 0-0 donc entre les deux formations. Et juste petit rappel, City qui a, avant le début de cette rencontre, 4 points de retard sur Arsenal, parce que les Gunners se sont imposés in extremis à Leeds 1-0. Donc City se doit de s'imposer cet après-midi sur la pelouse d'Anfield pour réduire cet écart entre les Gunners et eux-mêmes.
Et oui, c'est ces Gunners qui sont
Arsenal,
surprenants.
Hein. En ce moment, ils sont...
On en parlait la semaine dernière, Roland, c'est vrai que le recrutement a été parfait du côté des Gunners.
Là, en plus, ça, ils prennent pas beaucoup de buts, ils ont toujours un joueur capable d'en marquer au moins un. Là, c'est vraiment, ça sera difficile de les empêcher de terminer dans les trois premiers. Ouais. Enfin, je ne parle pas des quatre premiers, dans les trois premiers, je crois.
Eh ben, on verra ça. En tous les cas, ils sont toujours en tête et ils ont conforté leur place grâce à cette victoire. 1-0 pour les Gunners. Donc 17h38 sur RMC, on repart à Monaco.
Attention à Kiaï, on a sorti de nouveau la Moupartant, ça revient. Tcham, le poteau, finalement le but peut-être non, incroyable. Sauvé sur la ligne par Caio Henrique Andrich, c'est capté par Nouvelle. Quelle occasion immense pour le Clermont Foot. Il y a eu trois situations différentes et peut-être que la plus grosse, c'est ce ballon à bout portant repris par un Clermontois et sauvé sur sa ligne par Caio Henrique. Mais il y a eu trois ou quatre frappes, il y a eu un poteau de Tcham aussi. C'est miraculeux. Ah oui. Et pour le coup, Nouvelle fait un bon travail, il sort bien, il bouche l'angle. Derrière, c'est repris par Tcham, c'est contré sur le poteau. Derrière, qu'est-ce qu'il a mis? C'est Kawi qui l'a mis sur Henrique. Et ensuite, c'est Rachani qui vient frapper dans la niche. Ça repart avec Kiaï, encore une fois, c'est bien coupé par Vanderson. Bien, vous arrivez pour la première grosse situation de Clermont qu'on disait un petit peu endormi presque après le carton rouge pourtant reçu par l'AS Monaco.
Ouais, les Clermontois qui étaient bien rentrés dans cette rencontre, qui depuis ce carton rouge donc avait un petit peu plus de mal à se projeter. Et qui ont concédé l'ouverture du score sur pénalty grâce à Brel Embolo pour les Monégasques. En tout cas, on scrutait un petit peu la réaction d'Alexander Nubel après son match de jeudi soir où il en a pris 4, où il a, comment dire, sur son jeu en pied, il a engendré un contre son camp un petit peu incroyable. Et pour l'instant, il est plutôt rassurant avec deux arrêts là sur cette action et un jeu au pied qui est décisif et qualitatif. Le ballon dans les pieds des Clermontois qui essaye d'appuyer sur la pédale d'accélérateur. La frappe de Seydou captée une nouvelle fois aisément par Alexander Nubel.
Ils vont plus avoir le choix. De toute façon, maintenant, les Clermontois menaient 1-0 en supériorité numérique, ils vont être obligés d'attaquer, peut-être de se découvrir, mais il va falloir aller chercher quelque chose face à cet AS Monaco cet après-midi. On rappelle que Clermont n'est que 4 points derrière Monaco, on n'en parle pas beaucoup de ce Clermont Foot, mais ils sont dans la première partie du classement, 8e les Clermontois et même 6e équipe à l'extérieur, 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. Donc il y a quelque chose à faire, pourquoi pas, pour les hommes de Pascal Gastien. Menés 1-0 après 36 minutes de jeu.
17h40, le tour des stades sur RMC dans l'intégral foot avec deux énormes rencontre dans les championnats étrangers. Madrid, Barça, Johan Bredov.
2-0 pour le Real Madrid face au FC Barcelone et on est sur le côté gauche avec Modric. On va suivre ce centre, la sortie de Ter Stegen qui va repousser, ça sera une touche de l'autre côté. 2-0, il reste un peu plus de 20 minutes à jouer en faveur du Real Madrid face au FC Barcelone.
Liverpool, Manchester City, Salim Bangali.
0-0 après 11 minutes de jeu, pour l'instant pas de grosse opportunité à signaler de part
et d'autre. Et puis Monaco Clermont, donc Maxime Tillet et Valentin Jamin.
37e minute de jeu, Monaco mène 1-0 face au Clermontois, mais Monaco réduit à 10 depuis l'expulsion de Mohamed Camara.
Un régal cet après-midi et ce soir pour tous les passionnés de ballon rond avec tous ces classiques. C'est un dimanche de classique avec, on vous le rappelle, en point d'orgue ce soir, la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille au Parc des Princes à 20h45. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Foot.
Christophe Cessieux.
Le Barça va-t-il connaître sa première défaite de la saison en Liga? C'est bien parti pour ça puisque les Barcelonais sont toujours menés 2-0 au Santiago Bernabéu par des Madrilènes qui gèrent désormais leur avance. Les Barcelonais qui ont eu une belle occasion sur un coup franc, mais ça n'a rien donné, Johan.
Ouais, une belle occasion avec ce coup franc tiré par Robert Lewandowski, mais directement dans le mur blanc du Real Madrid, et le contre derrière qui n'a rien donné pour les Madrilènes. Mais ça sera une touche, d'ailleurs un changement là à l'instant du côté du FC Barcelone avec la sortie d'Ousmane Dembélé, ouais, qu'on a vu faire de bonnes choses techniquement, mais voilà, il manque d'impact dans les 30 derniers mètres, jamais la bonne passe, les mauvais choix, hein, Xavi le disait. Et c'est Ansu Fati qui le remplace, la jeune pépite barcelonaise un peu gênée par les blessures ces dernières saisons, lui à qui on promettait de grandes choses. Toujours 2-0 pour le Real Madrid, il reste encore 18 minutes à jouer dans le temps réglementaire. 2-0 pour le Real contre le Barça.
Le premier quart d'heure est terminé à Anfield où les Reds affrontent Manchester City. Pour l'instant, personne n'a trouvé la faille, Salim Bangali, dans la défense.
Non, mais il y a eu déjà des petites opportunités, notamment une pour Manchester City. Ilkay Gundogan, il y a quelques instants, qui a vu sa frappe cadrée facilement captée par Alisson, une frappe cadrée suite à une balle difficilement dégagée par la défense de Liverpool. D'ailleurs, peut-être nouvelle opportunité pour Erling Haaland qui avait été servi par Kevin De Bruyne à la surface, mais finalement balle un peu trop longue et Alisson là encore sort aisément. Mais franchement, depuis un quart d'heure, l'intensité notamment dans les duels, l'intensité dans les impacts, les coups d'épaule, tout ce que vous voulez, c'est impressionnant. Et sincèrement, Liverpool, alors on sait notamment défensivement, Liverpool a des difficultés, mais pour le coup le milieu de terrain notamment aide énormément cette défense, ce qui fait que ce milieu de terrain de City est un petit peu en difficulté. Peut-être là une opportunité pour Diogo Jota qui était lancé par Andy Robertson, mais finalement le bon retour défensif, toujours 0-0 après 16 minutes et 30 secondes de jeu.
Et Haaland qui est surveillé comme le lait sur le feu par les défenseurs des Reds, hein. On ne lui laisse pas beaucoup d'espace, mais il sait les créer tout seul ces espaces.
Par contre, à côté tu as Da Silva et Foden.
Oui, c'est rien.
Et je rappelle, il y a aussi un Kevin De Bruyne. En 9 jours de championnat, Kevin De Bruyne, c'est 9 passes décisives, hein, donc ça va aussi.
C'est pas mal, effectivement, l'effectif de cette équipe de Manchester City. Monaco, Clermont. Là, le score a été ouvert sur pénalty tout à l'heure par des Monégasques qui étaient réduits à 10 contre 11 Clermontois. Qu'en est-il ? Est-ce que les Clermontois ont bien réagi derrière, Maxime et Valentin ?
La réaction clermontoise est très bonne. Ils insistent et ils accélèrent avec une nouvelle tentative. Cette frappe de Mohamed Cham qui passe à côté du but d'Alexander Nubel. Mais sur ces dernières minutes, ce sont clairement les Clermontois qui appuient sur la pédale d'accélération.
Et Monaco a reculé. Monaco va devoir tenir avant la pause, puisque Monaco est donc à 10 après l'expulsion de Mohamed Camara. Après 20 minutes de jeu à cause d'une semelle, il y a eu un poteau tout à l'heure pour le Clermont Foot, il y a eu succession de situations et un corner il y a quelques instants. Donc effectivement pour l'AS Monaco c'est difficile, d'autant que Monaco, on le rappelle, a joué cette semaine en Turquie jeudi soir en Ligue Europa face à Trabzonspor, tandis que Clermont a profité d'une semaine complète de récupération. Donc forcément ça va jouer aussi à un moment, déjà deux changements effectués par Philippe Clément pour une réorganisation tactique. Bref, il va falloir tenir pour l'AS Monaco, qui pour l'instant assure l'essentiel. En plus, à 10 contre 11. Donc pour l'instant, ils assurent l'essentiel, mais ça va être forcément compliqué.
Mais pour l'instant, Axel Disasi tient la baraque. Là, il a fait un très gros tacle tout à l'heure dans la surface de réparation sur Gray John Key. C'est l'un des duels de ce match. Il y a du gabarit, notamment dans la surface de réparation Molégasque quand les Clermontois attaquent.
Ouais, un nouveau coup franc, messieurs, à 40 mètres de la cage de Monaco, obtenu par les Clermontois. Ça fait deux ou trois fois là que les Monégasques sont sanctionnés sur des fautes pas forcément très proches de la surface de réparation, mais à 40 mètres des buts, qui peuvent se montrer dangereux. Coup franc tirant de temps avec Kaoui pour Seydou, il a raté sa passe, c'est complètement gâché, mais Golovin va refaire une faute, cette fois-ci plus proche de la surface de réparation sur l'Autrichien Cham. Il l'a poussé avec les bras et donc Saifedine Kaoui va pouvoir se rapprocher. On est quasiment à l'angle de la surface cette fois-ci.
Oui, ça agace Philippe Clément, parce que là sur cette faute là, ce petit coup de coude, le jeu avec les bras d'Alexander Golovin, ça offre un coup franc encore mieux placé aux Clermontois qui sont de plus en plus pressants sur la cage d'Alexander Nubel. Ça va être frappé par la patte gauche de Saifedine Kaoui.
L'ancien Marseillais, l'ancien Canet, Rudy Buquet est en train de demander à Golovin de bien se placer. Alexander Nubel lui donne ses consignes au Russe qui va être le seul joueur dans le mur. Donc 45 minutes de jeu, il reste 40 secondes dans le temps réglementaire de cette première période. On rappelle que l'AS Monaco est devant 1-0 grâce au but sur pénalty de Brelem Bolo. À la demi-heure de jeu, il y a du monde. Les défenseurs centraux sont montés puisque Saifedine Kaoui est excentré côté droit de la surface. Il est gaucher, ça va donc être rentrant pour l'ancien Marseillais. Rudy Buquet est en train de faire la police. C'est long dans cette surface de réparation, notamment avec Mbolo et Kiel, l'attaquant monégasque. On va pouvoir y aller pour Kaoui, aligné titulaire pour la quatrième fois de la saison. Ce coup franc plutôt bien tiré, repoussé de la tête par Maripane. Et derrière, Golovin en second rideau va donner de l'air que très peu, puisque ça va revenir rapidement pour Clermont. Encore 10 secondes dans le temps réglementaire, 1-0 pour Monaco face à Clermont dans cette première période. Il y aura 2 minutes de temps additionnel.
Pas tout à fait la même ambiance à Louis II qu'à Santiago Bernabéu à Anfield, hein, Roland. C'est étonnant quand même.
Ouais. Ouais.
Ah, messieurs, juste, on a quand même David Trezeguet, on a vu Francesco Totti et Alexander Zverev, le tennisman. Voilà. Donc, ils mettent pas l'ambiance, mais il y a du beau monde.
Ils habitent tous sur le rocher, donc c'est sûr, ils viennent à la maison.
Ils viennent à pied.
Ils viennent à pied au stade, effectivement.
Mais on n'a pas de ballon d'or. Alors qu'à Santiago Bernabéu, il y a un ballon d'or.
Johan Bredov, il a un ballon d'or. Il y a même Kamavinga, je crois, qui va faire son entrée ou qui a fait son entrée dans les rangs madrilènes, Johan.
Oui, il va faire son entrée là à l'instant. Eduardo Kamavinga, il va remplacer Luka Modric. Hein. On rappelle que le Real mène toujours 2-0. Il y a encore 12 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Et Kamavinga, juste à l'instant, qui remplace le ballon d'or de cette rencontre pour l'instant. Le seul, c'est Luka Modric, ballon d'or 2018, avant peut-être demain soir. Un nouveau ballon d'or du côté madrilène. On attend évidemment Karim Benzema. Toujours 2-0 pour le Real qui est tranquille face au FC Barcelone. Il aurait peut-être pu avoir un pénalty quand même pour les Blaugrana sur un contact entre Dani Carvajal et Robert Lewandowski. L'arbitre a tout de suite dit aux Polonais de se relever, et après consultation avec les arbitres assistants, a tout de suite dit à Lewandowski de se calmer. Donc voilà, 2-0 pour le Real face au FC Barcelone. Encore 11 minutes à jouer dans le temps réglementaire.
Ok, ok, donc toujours 2-0 pour le Real face au Barça. Tiens, je vous rappelle les résultats des matchs de Ligue 1 qui se sont disputés cet après-midi, avec en tout début d'après-midi la victoire de Toulouse aux dépens d'Angers, 3-2. Un peu plus tard, Auxerre et Nice ont fait match nul, 1-1. Nantes a enfin renoué avec la victoire, et quelle victoire, 4-1 face à Brest. Match incroyable entre Rennes et Lyon, et la victoire bretonne au bout du temps réglementaire, 3-2. Roland, un tout petit mot sur ce match, les Rennais, et notamment les anciens Lyonnais qui ont crucifié leur ancien club.
Un match magnifique, des choix un petit peu surprenants, deux arrières centraux nouveaux qui n'avaient pas joué depuis longtemps, Boateng et Diomandé, Aouar qui n'avait pas joué depuis longtemps. Donc c'est vrai que ce sont des choix surprenants, mais il fallait bien que Laurent fasse quelque chose.
Ouais, et ça n'a rien donné, puisque pour sa première à la tête de l'Olympique Lyonnais, il est battu, Laurent Blanc, 3-2, par Rennes.
Quand je parle de ces trois joueurs, l'organisation aussi a changé, avec trois arrières centraux.
Et puis le dernier match de l'après-midi opposé Troyes et Ajaccio, il y a vu les deux équipes faire match nul, un but partout. Les dernières secondes à Louis II, moi, que ça soit déjà sifflé, non,
c'est sifflé, c'est terminé, et les 22 acteurs rentrent au vestiaire. Les Monégasques sont devant, ils mènent 1-0 suite à l'ouverture du score de Brelem Bolo sur penalty. Quelques instants plus tôt, Mohamed Camara, le milieu de terrain malien de la SM, est sorti, expulsé, mais pourtant ce sont bien les Monégasques qui mènent, malgré une certaine domination par moment des Clermontois, Valentin.
Oui, ils ont notamment touché le poteau, les Clermontois, mais ça ne suffit pas, donc Clermont menait 1-0 à la pause.
Merci les garçons, à tout à l'heure pour la deuxième période. Il est toujours en cours le match entre Liverpool et Manchester City. On attend le premier but, Salim. C'est pas possible qu'il n'y ait pas de but dans un choc d'une telle splendeur.
Normalement, a priori, ça ne devrait pas être le cas. En tout cas, sur les 32 dernières confrontations, toutes compétitions confondues entre les deux, il y a eu un seul 0-0. Donc j'ose penser, j'ose me dire qu'a priori, on devrait être pas mal. L'année dernière, 4 buts en moyenne.
Ah oui.
Donc, on espère qu'il y aura des buts quand même cet après-midi, pourquoi pas là. Et James Miller, le débordement et la balle parfaitement dégagée par Anderson, c'est pas tant bien, Diarro Bertrand, c'est au-dessus, c'est juste au-dessus, la demi-volée de l'arrière gauche. L'action était très très belle avec James Miller au poste derrière droite, dont le débordement et le centre fort a été repoussé par Anderson, et Andy Robertson, lui l'arrière gauche, qui au second poteau a tenté la demi-volée qui est passée au-dessus juste avant Liverpool, qui avait cadré sa première frappe, une tête de Diogo Jota qui a été, elle, facilement captée par Anderson. Mais oui, Liverpool sort de plus en plus. Je rappelle Liverpool où de nombreux joueurs sont pas là, Luis Diaz n'est pas là, Matip n'est pas là, Trent Alexander-Arnold est sur le banc, là où à City Zinchenko n'est pas là, mais sinon tout le monde à City est là. Et bien Liverpool après 24 minutes est pas si mal que ça.
Et oui, et Liverpool qui a plutôt de bons résultats face à Manchester City depuis quelques temps, puisque Manchester City n'a plus gagné depuis février 2021. Il reste sur 4 matchs sans victoire, dont 2 défaites face à Liverpool,
et notamment la dernière lors du Community Shield. Ouais. C'était au tout début de saison, une victoire de Liverpool face à cette équipe de City, même si le Community Shield, l'équivalent du trophée des champions, on considère ça plutôt comme une rencontre de tout début de saison où les organismes ne sont pas totalement prêts. Là en revanche, la passe de Kevin De Bruyne, elle est très belle, elle est très très belle pour un contre pour Phil Foden sur le côté gauche, qui est obligé tout de même de revenir un tout petit peu sur ses pas et d'attendre finalement ses coéquipiers qui vont finalement permettre à Liverpool de pouvoir se replacer. Liverpool qui est très intéressant défensivement aussi, j'insiste, tout le monde travaille comme il faut et Liverpool tient bien après 25 minutes 0-0.
Merci Salim, il est 17h55, 0-0 entre Liverpool et Manchester City, 2-0 pour le Real face au Barça. Il reste 8 minutes encore à jouer dans ce match, et à la mi-temps Monaco mène 1-0 face à Clermont. Je vous rappelle que ce soir à 20h45 vous pourrez suivre le classique du championnat de France, à savoir Paris Saint-Germain Olympique de Marseille, à suivre sur RMC avec l'after en direct du Parc des
RMC Intégral Foot.
Christophe Cessieux.
Ah là là, attention, Santiago Bernabéu qui retient son souffle. Et si la victoire du Real était remise en question, le Barça qui vient de réduire l'écart face à son grand rival madrilène.
Tout à fait, et c'est l'accélération d'Ansu Fati côté gauche qui rentre dans la surface de réparation, le centre, le geste manqué de Robert Lewandowski qui avait tenté une matière, et ça revient au deuxième poteau pour Ferran Torres qui conclut du pied gauche. Mais voilà, Barcelone est relancé, Barcelone a justement la balle à 3 minutes de la pause avec Frankie de Jong qui va essayer de trouver dans la surface de réparation. Wow. Attention, la grosse occasion, ça passe juste à côté du poteau gauche d'André Lounin. Ça a rasé le poteau gauche, l'arbitre qui avait sifflé. Mais voilà, c'est chaud devant les cages madrilènes. 2-1 dorénavant pour le Real Madrid face à Barcelone à la 87e minute de jeu.
Et il y a encore le temps.
Eh oui, encore 3 minutes. Et là, effectivement, les madrilènes qui sont regroupés dans leur camp en défense, hein, mais attention, hein, ils ont connu par le passé des situations inverses. Mais là, il tremble ce soir, les Madrilènes, dans ces derniers instants de jeu de 2 buts à 1. Donc, on vous le rappelle, pour le Real face à Barça, 87 minutes et 7 secondes au chronomètre. Liverpool-Manchester City, mon cher Salim, toujours pas de but?
Non, pas de but, mais là, Bernardo Silva qui va frapper juste au-dessus. Sinon, c'est dommage, parce que City avait bien fait ce qu'il fallait pour arriver aux abords de cette phase de réparation avec Kevin De Bruyne qui avait bien décalé Erling Haaland, qui lui, à son tour, avait réussi à trouver sur le côté gauche Phil Foden. Foden qui a pu remettre derrière pour Bernardo Silva, et finalement sa frappe pour l'ancien Monégasque qui est passé au-dessus. Nouvelle opportunité peut-être pour City avec Erling Haaland au second poteau, le contrôle de la poitrine du Norvégien qui est obligé de recentrer dans la surface de réparation, et finalement James Milner tranquille serein qui va remettre sur Alisson. J'insiste sur Liverpool qui est intelligent notamment dans ses contres. On a vu un duel, le mètre 75 de Salah face au mètre 88 de Ruben Dias, mais le Portugais a été totalement mangé par l'Égyptien, mais la suite de l'action a été loupée par Hervé Elliott. Mais Liverpool intéressant en contre, j'ai envie de dire au point, même s'il y a 0-0, au point Liverpool mène, on peut le dire. Ouais.
Allez, on va vivre les derniers instants de ce match entre le Real et le Barça. Il reste moins de 2 minutes au chrono officiel, et Barça qui pousse, qui n'est plus mené que 2 buts à 1, Johan.
Ouais, exactement, le Real Madrid qui mène 2-1, il reste 1 minute 30 dans le temps additionnel. Et justement, un contre là du Real avec cette percée plein axe. On va essayer de trouver Rodrigo dans la surface de réparation. Il y a peut-être un contact dans l'arbitre qui ne siffle pas. Ça va être un ballon récupéré par le FC Barcelone. Juste pour vous dire également que Karim Benzema est sorti sous les ovations du stade Santiago Bernabéu, sous l'ovation de ses supporters. Peut-être le dernier match de Karim Benzema sans ballon d'or.
Donc ah voilà. Oui, tu m'as fait peur.
Je t'ai fait peur, ça évidemment. Je savais que j'allais te faire peur comme ça, mais sans ballon d'or.
Au PSG pour remplacer Mbappé, non, c'est pas
possible. Ce sera un autre homme demain, Karim Benzema. Normalement, il va entrer dans la légende du football. Mais voilà, toujours 2 buts à 1 pour le Real Madrid face à Barcelone, alors que on revoit les images à la VAR avec ce contact entre Eric Garcia et Rodrigo. Il me semble peut-être que le Barcelonais lui marche sur le pied. En tout cas, c'est checké par le VAR. On va voir ça. Pour l'instant, le jeu est arrêté. 2 buts à 1 pour le Real Madrid face à Barcelone.
Ah, les Barcelonais qui estiment qu'il n'y a pas eu de faute, mais effectivement, c'est revisionné plusieurs fois par.
Il y avait peut-être en jeu même sur la passe de Valverde. Donc il faudra voir peut-être deux fois les images. D'abord pour checker la faute, d'abord, et ensuite pour checker le hors-jeu.
Ouais. On revient vers toi dans un instant. On va parier sur la deuxième mi-temps de Monaco-Clermont tout de suite.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec Johan Guillet qui nous rejoint. Salut Johan.
Salut messieurs. Salut.
Alors, que nous conseilles-tu pour la deuxième mi-temps de ce match Monaco-Clermont?
Je vais vous donner les codes safe dans un premier temps. Elle reste déséquilibrée, mais pas tant que ça. 1,46 la victoire de Monaco, 3,55 le match nul, 6,75 le succès clermontois. Alors oui, c'est énorme, mais 1,46 quand Monaco mène 1-0, forcément, c'est pas non plus très bas, messieurs, sans doute dû au carton rouge. Ce que je vais vous proposer, tout simplement, c'est Monaco qui ne perd pas avec les deux équipes qui marquent. C'est possible à 11 contre 10 pour Clermont. Et ça vous permet de doubler la mise. Ça me paraît pas mal du tout.
C'est pas mal du tout. Je vais être OK. Je vais rajouter, pour m'amuser, le 2-0 pour Monaco et le 2-1.
2-0 ou 2-1 dans un my match, c'est 3-0-5. Ça aussi, ça me paraît pas mal du tout.
Merci, Johan.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Et il y avait faute finalement. Pénalty pour le Real, Johan.
Et oui, on est entré dans le temps additionnel. Rodrigo qui a subi la faute et Rodrigo qui va se faire justice lui-même. Il s'élance, la frappe et il s'est touché. Mais but! But, c'est rentré. 3 plus 1 pour le Real Madrid face au FC Barcelone. Le Real qui se dirige vers une nouvelle victoire dans un classico. Pour l'instant, on est dans le temps additionnel. Il va rester quelques minutes, mais les jeux semblent faits. 3 pour le Real Madrid, 1 but pour le FC Barcelone.
Les Barcelonais qui ont rêvé l'espace de quelques instants lorsqu'ils ont réduit l'écart, et puis ce pénalty sur un contre madrilène. Il n'était pas flagrant, hein, Roland, le péno, mais il y avait un petit quelque chose. Et
mais bon, ce qui n'est pas flagrant, hein. Des fois, pour certains clubs, c'est flagrant.
Ah, tu veux dire que pour le Real, c'est...
Non, ah, ouais, il lui marche sur le pied quand même. Il lui marche sur le pied droit. Ouais, je pense que après, c'était surtout si ça jouait au hors-jeu, mais voilà, il a tiré sur le côté gauche du gardien. gardien, il était pas loin Ter Stegen, il la touche mais la main pas assez ferme et ça fait 3-1 donc pour le Real Madrid face au FC Barcelone dans le temps additionnel.
Ok, donc les carottes sont cuites pour le Barça qui va s'incliner pour la première fois de la saison en Liga. Ouh là là, une petite tête de Haaland qui est passée au-dessus quand même, Salim, mais il est là quand même, le géant norvégien, il est toujours bien présent dans ce match entre Liverpool et Manchester City. Klopp a l'air furieux, qu'est-ce qui se passe?
Oui, il a l'air furieux et il l'est parce qu'il estimait qu'au début de l'action il y avait une faute sur Mohamed Salah de Rodrigo, faute qui était réelle pour le coup sur l'Égyptien, mais l'arbitre n'a rien dit et a laissé l'action se poursuivre et donc il y a eu ce danger effectivement avec Kevin De Bruyne et on a l'impression, c'est incroyable hein, entre De Bruyne et Haaland, ils n'ont même pas besoin de se voir en fait. De Bruyne, il a contrôlé bizarrement cette balle, mais il l'a contrôlé, il l'a remis dans une zone, il savait qu'Haaland allait être dans cette zone-là et ils se sont trouvés, attention justement, dès que Kevin De Bruyne sur le côté droit, le centre qui va finalement être repoussé, Van Dijk,
tu sais, c'est les éternels débats qu'on peut avoir avec l'acclimatation, l'adaptation d'un nouveau joueur dans un... suivant ce que c'est comme joueur. Et si tu as choisi et que tu as réussi ton choix d'être complémentaire, il te faut entre 5 et 6 minutes pour qu'ils puissent jouer ensemble les yeux fermés.
C'est ça l'acclimatation. En plus, quand on a des joueurs comme ceux-là autour de soi, ça peut aider effectivement. Corner, je le disais, pour City, deux joueurs qui sont au ballon, le pied gauche de Phil Foden ou le pied droit d'Ilkay Gundogan et Jean Titi, évident de la surface, Erling Haaland, forcément Ruben Dias aussi, finalement le corner qui va être frappé à deux. Et c'est Kevin De Bruyne qui va essayer de centrer et finalement cette balle qui va être repoussée, mais ce n'est pas totalement terminé. João Cancelo, lui, va le récupérer sur le côté gauche au pied droit, est toujours aussi précieux et efficace. Finalement, il ne va pas prendre de risque. On va repasser pleinement derrière avec Bernardo Silva. 37 minutes 0-0. Et juste avant la fameuse tête que tu évoquais, Christophe, Erling Haaland qui s'est procuré une occasion à la Erling Haaland, j'ai envie de dire, avec une balle en profondeur de la part de Phil Foden à ras de terre. Et Erling Haaland qui a frappé, balle dégagée par Alisson, toujours 0-0 après 37 minutes.
Merci Salim. Les derniers instants à Bernabeu et la victoire du Real qui va se confirmer, qui va être confirmée dans un instant.
Et maintenant même, à l'instant, victoire du Real Madrid 3-1, des buts de Karim Benzema, de Valverde. Ferran Torres avait réduit l'écart pour le FC Barcelone avant que Rodrigo marque sur pénalty. Il avait subi la faute, il s'est fait justice lui-même, le Brésilien, dans le temps additionnel de cette fin de match. 3-1, victoire du Real Madrid qui prend 3 points d'avance sur le FC Barcelone en Liga et qui se venge de la défaite lors de la dernière saison, 4-0, victoire de Barcelone, hein, 4-0 sur la pelouse de Santiago Bernabéu. Voilà la vengeance, et le Real Madrid qui est seul en tête de la Liga.
Exactement, première défaite de Barcelone cette saison. Madrid seul en tête, 25 points, 22 pour Barcelone et 19 pour l'Atlético et la Real Sociedad qui sont troisième et quatrième.
Real sans la présence d'un de leurs points forts, à savoir Courtois. Donc c'est quand même, il y a un effectif de très 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 haut niveau.
Effectivement, donc le Real en tête de la Liga. Corner pour Liverpool, Salim.
Avec Andy Robertson, corner sortant, finalement dégagé par la défense, mais c'est pas terminé. Harvey Elliott qui tente de récupérer cette balle qui va finalement être repoussée par la défense. Deuxième chance peut-être avec Andy Robertson une nouvelle fois sur ce côté gauche. Il tente de jouer le 1-2, 1-2-3 avec Firmino, 1-2-3-4 même pour rentrer dans cette surface de réparation. Le centre fort qui va finalement être dégagé. 0-0 après 38 minutes.
Et le jeu va reprendre dans un instant au stade Louis II, Maxime Valentin. Et... on rappelle que Monaco mène à 0 à la pause.
Et vous voyez, les Monégasques sont à 45 minutes d'une sixième victoire consécutive en Ligue 1. Ce serait la meilleure des réponses après la défaite 4-0 sur la pelouse de Trabzonspor cette semaine. Ils mènent 1-0 grâce à l'ouverture du score de Brel Mbolo. On attend de voir la réaction des Clermontois dans cette deuxième mi-temps. Les Clermontois en supériorité numérique.
Et on rappelle que donc Monaco est à 10 depuis la 20e et l'exclusion Camara, coup d'envoi de cette seconde période imminente donnée à l'instant même par l'international français Youssouf Fofana qui va trouver Axel Disasi, lequel écarte sur la droite vers Vanderson, un premier long ballon pour les Monégasques vers Brel Mbolo, contrôle de la poitrine à l'entrée de la surface, la petite remise dégagée par Coffrier. On va évidemment suivre effectivement comment Monaco va gérer cette seconde période, trois jours après avoir joué en Ligue Europa en Turquie en infériorité numérique. Monaco qui a marqué sur pénalty, Monaco qui a tiré deux fois en première période, le pénalty et le but d'Mbolo juste derrière.
Ils étaient en infériorité footballistique.
Oui, on rappelle qu'ils ont perdu 4-0 face à Trabzonspor. Donc je vous disais, deux frappes pour Monaco, le pénalty d'Embolo repoussé sur ce même Embolo pour le but, alors que Clermont a frappé 10 fois. Clermont, on se le disait à la pause, s'est montré plutôt intéressant. Ils ont touché le poteau, les Clermontois. Ça manque peut-être un petit peu de tranchant, mais il y a quelque chose à aller chercher, et notamment pourquoi pas un point au moins à aller chercher cet après-midi.
Ok, donc la reprise du jeu dans un instant. On va accueillir Fred Hermel, Federico, qui va nous reparler évidemment de la victoire du Real. Oh, il doit être content. Je le connais, l'animal, il doit être ravi, d'autant que son poulain préféré, Karim Benzema, va sans doute décrocher demain le Ballon d'Or. Tout va bien pour Madrid et pour Karim Benzema. Liverpool-Manchester City toujours 0-0. Et donc Monaco qui mène 1-0 face à Clermont. Je vous rappelle les résultats des matchs de Ligue 1. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, sachez que Toulouse a battu Angers 3-2, que Auxerre et Nice ont fait match nul un partout, que Nantes a renoué avec la victoire 4-1 face à Brest, que Troyes et Ajaccio ont fait match nul partout. Et enfin que Rennes s'est imposé 3-2 face à Lyon. Ce soir, Paris Saint-Germain-Marseille, ce sera à 20h45. Il est 18h10 sur RMC. On se retrouve dans un instant pour faire le bilan de ce classico, le vrai, le seul, l'unique, qui a vu la victoire du Real il y a quelques instants face au Barça. Tout de suite.
RMC, Intégral Foot.
Christophe Cécile.
18h13 sur RMC. On attend évidemment avec beaucoup d'impatience le classique du championnat de France. Ce sera ce soir, 20h45. Entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, on va parler dans quelques instants avec Fabrice Hawkins du côté parisien. Sachez que Monaco mène toujours 1-0 face à Clermont et que Liverpool et Manchester City sont à égalité 0-0. On approche de la mi-temps. Hein. Salim, c'est dans quelques instants maintenant que ça va être sifflé.
Exactement, dans 1 minute 30, toujours 0-0 entre les deux équipes. Et City, petit à petit, qui prend la main enfin sur cette rencontre, qui s'est procuré des opportunités et surtout qui voit Kevin De Bruyne être très souvent esselé. C'est bien de surveiller Haaland, mais il faut aussi surveiller le petit Belge.
J'en connais un qui doit avoir le sourire là, alors qu'il est 18h14. Il est tranquille, oh, c'est presque l'heure de l'apéritif, et en Espagne en tout cas. Et son club du Real a gagné, Benzema a marqué. Ça va Fred?
Mais je suis content parce que Lens est sur le podium et qu'on va aller en Ligue des Champions, les amis. Mais je vais voir l'année prochaine un Real Lens à Bernabéu. Hola chicos.
Ce week-end est parfait pour toi jusqu'à présent, Fred.
Je viens de voir quand même un bon match de football. Puis je viens de voir deux vieux, tu sais, des mecs qui ont passé largement la trentaine. Et on a envie que ça dure très longtemps. Ils s'appellent Toni Kroos et Luka Modric. Vous savez, tant que le Real aura ces jours-là en capacité physique, parce que le talent, ils l'auront tout le temps d'être titulaire dans un grand match comme celui-ci, comme le Classico, le Real ira bien, quoi. Le festival.
Allô? Ah, on l'a perdu. On l'a perdu, Fred. On va le retrouver. Il nous parle du festival Modric-Kroos. Ouais, voilà, le festival est parti. Il reviendra dans un instant. On en profite pour aller faire un tour à Monaco. Monaco-Clermont, Maxime Thiette et Valentin Jamin.
52e minute de jeu, 1-0 toujours pour les Monégasques, réduit à 10 depuis la 17e minute et l'expulsion de Momo Camara dans l'entrejeu. Le pénalty transformé quelques instants plus tard par Brel Embolo pour permettre à l'ASM de mener, mais ce sont les Clermontois qui dominent en cette deuxième mi-temps.
Avec ce ballon côté gauche, notamment pour le Brésilien Borges au niveau de la surface de réparation, il va aller provoquer Diata, le 1-2 bien joué avec Kay dans la surface. Borges au niveau des 6 mètres, le centre en retrait, c'est repoussé difficilement par la défense monégasque et par le Chilien Maripane. La relance de Vanderson et Brel Embolo qu'il ne va pas réussir à conserver ce ballon. Ça va être difficile si ça se poursuit comme ça pour Monaco, donc réduit à 10 depuis la 20e minute et qui mène toujours 1-0. Il va falloir garder ce score pour les Monégasques et pour ça il faudra de l'énergie. 53e minute de jeu, 1-0 pour Monaco face à Clermont.
Bon, Salim Bengali, on attend toujours le but. Ce sera vraisemblablement pas pour la première
frappe de Kawi, c'est repoussé, puis finalement le but. Pour Clermont, l'égalisation, c'est revenu sur Andrić, cette frappe de Kawi repoussée par Alexander Nübel, l'Allemand, dans sa propre surface. Et Andrić qui vient conclure dans le but vide, le Serbe, et marquer son troisième but cette saison. On le disait, Monaco reculait, Monaco a fini par craquer en tous les buts de seconde période. Un partout entre Monaco et Clermont, 53e.
Et qu'est-ce que c'est bien fait cette passe en ligne touche de Johan Magnin qui lance Saifedin Kawi qui n'est pas hors jeu, coach. L'arrêt de Nübel derrière, mais c'est bien suivi par Andrić, le Serbe, qui fait trembler les filets derrière. C'est mérité pour ces Clermontois.
Pas de hors-jeu et donc l'égalisation clermontoise. Attention à Monaco, attention.
Ben Kawi, il est dans tous les coups, hein. Il est dans les coups du coup.
C'est vrai. C'est lui qui provoque l'exclusion. C'est lui qui est à la baguette sur les coups de pied arrêtés. C'est lui qui frappe sur ce ballon repoussé donc par Alexander Nübel. Un partout entre Monaco et Clermont, 54e. On a l'impression que le vent tourne doucement dans cette rencontre.
C'est la mi-temps, Anfield, Salim, 0-0.
Absolument. Score l'univers entre ces deux formations. Il y a eu des petites opportunités. Il y a eu un nombre de duels conséquents. Erling Haaland est en partie surveillé. Kevin De Bruyne un peu moins. On en attend encore plus en seconde période. Mais encore une fois, Liverpool, loin d'être inintéressant dans cette première période, la seconde s'annonce passionnante, évidemment.
Le classique anglais pour l'instant qui vierge de buts, qui n'a pas été le cas du classico espagnol, qui a donc vu la victoire du Real aux dépens du Barça. La première défaite catalane de la saison en Liga, en tous les cas. Et donc, le Real qui en profite pour prendre seul la tête du championnat. On a retrouvé Fred qui était évidemment extatique devant la performance des vieux, des anciens, des cadors
ah,
de cette équipe du Real.
Bon, ça, on l'a entendu. Vous avez entendu.
Le reste, on t'a coupé. Paf, bah, je sais pas si
c'était plus important. C'est vrai que l'intelligence de jeu de Kroos, son travail dans la récupération, dans la direction du jeu est extraordinaire. Modric qui a provoqué des olés dans le stade Santiago Bernabéu avec des gestes techniques merveilleux et puis une défense qui a été très bonne. Lewandowski a été totalement muselé, donc non, ça a été un très très bon Real Madrid. Oui, je sais pas si on l'a entendu, mais je disais qu'en fait la grosse différence entre les deux équipes, c'est qu'il y a une équipe 1-11 et une équipe globalement dans son ensemble, c'est exactement ce qu'elle fait, une équipe finie, très clair dans tous ses contours, et en face une équipe en construction avec un entraîneur en construction. Xavi Hernandez est un jeune entraîneur, on lui a ramené plein de joueurs, mais ça ne suffit pas. Et c'est très intéressant parce que Xavi essaye finalement de reproduire en tant qu'entraîneur ce qui marchait quand il était joueur. Mais ce jeu horizontal aujourd'hui n'est plus adapté au football moderne, et puis surtout il n'y a pas les joueurs qu'il y avait avant. Et puis on a vu la seule petite lumière du côté du Barça, c'est en deuxième période quand est entré Ansu Fati, un joueur très vertical, et le but du Barça est venu de là. Donc ouais. Ça prouve que est-ce que le style de Xavi est adapté au Barça, et est-ce que le style du Barça est adapté au football d'aujourd'hui. Ça, il y aura de nombreuses occasions d'en discuter. Mais ce soir, c'est clair, le Real gagné était meilleur que le Barça.
Roland, tu as la même analyse que Fred.
Ouais, complètement. Ouais. Et en ce qui concerne ces deux chouchous vieillissants, je crois qu'ils sont suffisamment intelligents dans la gestion. Un Ancelotti, c'est pas un garçon venu d'hier, mais tu peux les utiliser 45 voire 60 minutes et après avoir un joueur avec qui il partage le boulot. Quand je vois ce que fait ce Valverde là, autant dans la récupération que maintenant. C'était un milieu, il joue même ailier droit, il joue de partout, il marque, il fait marquer. Et quand je vois un Camavinga qui peut prendre le relais d'un de ces joueurs un petit peu vieillissant, ben je trouve que la gestion, elle est quand même pas mal dans le recrutement qu'ils ont fait. Bon, ils se sont trompés deux trois fois, notamment avec Hazard, mais sur l'ensemble, ils font
pas beaucoup de déchets quand même.
Pas n'importe
et Tchouaméni. Et Tchouaméni, le match que fait Aurélien Tchouaméni ce soir.
Lui, j'en parle même plus.
Tellement il est bon. Enfin, ouais. Il a fait une petite erreur au tout début de match, mais après, bon. il a été parfait.
Il a raté une passe.
Oui, Madrid, ouais, ça se fait pas.
Il n'était pas en forme aujourd'hui.
Non, mais il a été très très bon, c'est-à-dire dans la gestion émotionnelle d'un tel match. Et puis voilà, puis comme dit coach, les entrées, quand tu peux faire entrer Camavinga, quand tu peux faire entrer Rudiger, quand tu peux faire entrer Asensio. Bon ben, il y a une chose que n'avait pas le Real l'an dernier. Le Real, champion d'Europe, champion de la Supercoupe d'Espagne et champion d'Espagne, c'est que le Real n'avait pas un vrai banc. Cette année, avec ses recrues, il a un vrai banc. Et on l'a encore vu ce soir, quoi. Donc oui, on est du côté du Real Madrid dans une phase de tranquillité liée à une puissance et une sérénité, voilà. Tant qu'on pourra donner le ballon à Modric et à Kroos, il pourra pas arriver grand chose de grave au Real.
La tranquillidad del Real. Un mot quand même de Karim, auteur du premier but, qui a bien failli en marquer un deuxième. Bon, il a été signalé hors jeu alors que le but était superbe. Bon ben voilà, il marque son territoire. On sait que demain il devrait recevoir le ballon d'or. C'est un beau message envoyé à tous ceux qui ont voté pour lui, Fred.
Oui, mais Karim faisait pas une saison exceptionnelle. Il faisait une très belle saison, mais il n'était pas encore au niveau de ce qu'on avait vu la saison dernière, où c'était magique. Donc, en plus, il était blessé, là. Mais là, dans les, comme on dit, les grands joueurs se voient dans les grands rendez-vous, et aujourd'hui, il était parfait. Le but, et puis aussi, c'est aussi la, la complicité qu'il peut avoir avec un Vinicius. Il savait très bien ce qu'allait faire Vinicius et il était là pour récupérer la balle en deuxième intention si le bloc gardien repoussait et Ter Stegen repoussait et Benzema a marqué. Donc puis après dans le jeu il était magnifique. Il a dans cette capacité à décrocher qu'il n'y a pas du côté de Lewandowski. Donc Lewandowski il peut pas faire ça. Lewandowski il a pour marquer des buts, mais comme on lui donne pas le ballon. Comme c'est difficile pour le Barça d'aller au-delà du milieu de terrain, surtout face à une équipe aussi bien organisée derrière que le Real Madrid, Benzema a été largement supérieur à celui qui est son opposant au titre de meilleur buteur de la saison en Espagne et ce soir son opposant direct, le Robert Lewandowski du Barça.
Merci mon Fred.
Merci les amis.
Bon apéro. On se retrouve demain évidemment sur RMC tout au long de la journée.
Oui. Hein. Et non, puis surtout demain soir spécial Ballon d'Or. Hein.
Ah spécial.
Ah bah oui, avec les drôles de dames bien sûr.
Ouais, évidemment. Merci mon Fred. Bonne soirée.
Adios.
À bientôt. Victoire donc du Real de Buzyn face au Barça. Le Real qui s'empare seul de la tête de la Liga. C'est la mi-temps Anfield. Et là aussi, c'est un grand classique pour l'instant. Aucun but marqué entre Liverpool et Manchester City. Et puis un match en attendant évidemment le grand classique du championnat de France ce soir entre Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Le match qui oppose Monaco à Clermont, Maxime et Valentin. Les Clermontois qui ont donc réussi à revenir au score et les deux équipes qui sont désormais à égalité à un but partout alors qu'on va atteindre l'heure de jeu.
Exactement, l'heure de jeu ici à Louis II et les Clermontois qui insistent pour essayer de trouver une nouvelle fois la faille dans la défense monégasque. Les Monégasques qui jouent depuis la 20e minute de jeu en infériorité numérique, on le rappelle, expulsion de Mohamed Camara. Et dans le jeu Clermontois, il y en a un qui rayonne aujourd'hui, mais c'est Saifedine Kaoui.
Saifedine Kaoui, attention, on va suivre cette action avec Rachani, côté droit de la surface de réparation, qui va la mettre en retrait pour les Clermontois, qui va être dessous. Il y a Cham qui va écarter vers Borges, toujours dans la surface, côté gauche. Cette fois-ci, le centre, il est contré, ce sera un corner pour Clermont. Monaco a vraiment vraiment reculé. Monaco n'arrive plus à sortir et Ismaël Jacobs d'ailleurs va entrer en jeu pour l'AS Monaco, alors que donc Saifedine Kaoui lui va effectuer ce corner. C'est Golovin qui sort pour Monaco, remplacé par Jacobs. Donc on est plutôt sur un changement défensif de la part de Philippe Clément, qui doit ménager ses hommes en infériorité numérique. Celui qui rayonne pour Clermont dont on parlait, c'est celui qui va tirer ce corner, Saifedine Kaoui, qui tout à l'heure a eu une belle occasion en première période, sa frappe repoussée sur la ligne par Caio Henrique. C'est lui qui frappe sur l'ouverture du score. Dans un premier temps, c'est repoussé par Nubel et ça revient sur Andrić. C'est lui qui est à la baguette, il a de nouveau tiré tout à l'heure et là il est avec son pied gauche en train de poser ce ballon corner de la gauche vers la droite à venir pour les Clermontois. Peut-être une cartouche pour espérer repasser devant. En tout cas, ce serait pas immérité de voir Clermont en mettre un autre vu ce qu'ils produisent en seconde période. Ils sont très bien revenus dans cette partie. Les Clermontois, ça va partir, Maxime, pour ce corner.
Saifedine Kaoui et sa patte gauche qui regarde la surface, les trois pas d'élan de l'ancien Marseillais. Ça va dans les airs, ça arrive au second poteau. Il y a Andrić à la retombe. Et le ballon était sorti, malheureusement sa frappe enroulée du pied gauche est sortie du terrain avant de re-rentrer. C'est dommage de gaspiller une cartouche pareille. 62e minute de jeu, un partout toujours entre l'AS Monaco et Clermont à l'heure de jeu. Donc les Monégasques toujours réduits à 10 en revanche.
Dans un instant on repart pour Anfield pour la deuxième mi-temps du match entre Liverpool et Manchester City. Je vous rappelle qu'à la pause les deux équipes sont à égalité 0-0. On va également accueillir dans un instant Fabrice Hawkins qui sera dans quelques heures, dans quelques dizaines de minutes au Parc des Prince pour le match entre Paris et Marseille. Et oui, c'est le choc du championnat de France. À tout de suite.
RMC Intégral Foot.
Christophe Cessieux.
66 minutes de jeu au stade Louis II et Monaco et Clermont qui sont à égalité, un but partout. Les Monégasques avaient ouvert le score après avoir été réduits à 10 contre 11 Clermontois, mais les Clermontois ont finalement réussi à revenir au score. On le sentait venir, messieurs, hein, et il y a un carton jaune qui vient d'être distribué pour un Clermontois. Oui, pour une grosse faute là, hein,
c'est le capitaine, hein, Johan Magnin.
Explique-moi pourquoi
la différence entre la faute qui a valu un carton rouge tout à l'heure et celle-là. Je sais pas,
il n'y a pas les crampons. Ah,
il y a pas les crampons, mais il y a une sacrée béquille quand même.
Hein. Non, bien sûr.
Ouais, c'est que Magnin était déjà pas passé loin du jaune. Il n'a pas bien attrapé, lui.
Alors, mais surtout que Magnin avait déjà fait quelques fautes en première mi-temps. C'est lui qui a concédé le pénalty. Il avait échappé au jaune à chaque fois. Là, cette fois-ci, il n'y échappera pas. Mais ça se rapproche. Et attention à lui, parce que les Clermontois ont l'opportunité cet après-midi de ramener peut-être 3 points de Louis II. Ça fait un partout pour le moment. Mais les Auvergnats dominent. Ce serait dommage de prendre un carton rouge et peut-être de pas faire une belle opération comptable. En tout cas, le ballon est dans les pieds des Monégasques qui ont un bon coup franc avec Caio Henrique. C'est peut-être un peu trop axial pour lui.
Peut-être qu'il va la jouer court. court, il y a une combinaison, on va voir. En tout cas, on sait qu'ils ont pas mal combiné les monégasques sur ces phases de jeu depuis le début de saison. C'est mis dans la boîte par Kayon Rick et dévié par Maripane, capté tranquillement par le gardien clermontois. Donc Mori Dio, un partout, 68 minutes de jeu. Juste vous signaler qu'il y a une super occasion pour Clermont tout à l'heure, parce que Alexander Nubel, le gardien monégasque, a complètement manqué sa relance à la main. Il a tout simplement relancé sur Neto Borges, le clermontois, à l'entrée de la surface, qui a frappé au-dessus. Mais ce fut une belle boulette quand, ouais, on sait qu'il a déjà quasiment concédé un contre son camp en dégageant dans son coéquipier cette semaine en Ligue Europa. Donc attention aussi aux sautes de concentration. Les monégasques donc font un partout face à Clermont. Après 69 minutes de jeu, les monégasques sont réduits à 10 depuis la 17e.
Merci, à tout de suite messieurs. Nous repartons en Angleterre également, Salim Mangali, pour le début de la deuxième mi-temps de ce match entre Liverpool et City. Ça vient de repartir à l'instant.
Absolument, 0-0, je vous le rappelle, à l'aube de cette seconde période, avec quelques petites opportunités en première. Il y en a eu un peu plus, en tout cas en chiffres, du côté de City, mais au final pas de grand danger sur la cage d'Alisson, si ce n'est sur une tête du Norvégien Haaland, qui a été aisément capté par le gardien brésilien. Tellement de duels en première période, des gros duels qui ont surtout été remportés d'ailleurs par Liverpool. C'est là où Liverpool est intéressant et a été intéressant sur cette première période, avec, je vous le rappelle également, de nombreux absents côté Liverpool. Trent Alexander-Arnold qui est sur le banc, Ibrahim Konaté qui n'est pas là, Luis Diaz également, l'attaquant colombien, qui n'est pas là. Là, la faute du jeu qui est arrêtée, puisque Rodrigo a commis une belle faute sur Thiago Alcantara, jeu arrêté après 46 minutes.
Ok, là c'est donc le classique du championnat anglais. On va maintenant s'intéresser, Roland, au nôtre quand même. Et c'est pas n'importe lequel. Ce soir, c'est un vrai, vrai choc entre Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Le leader évidemment face à l'un de ses dauphins, une équipe marseillaise qui a réalisé un très bon début de saison, même s'il y a eu cette défaite face à Ajax la semaine dernière. Finalement, quelque peu... pas renforcé, mais il y a eu le match et la victoire en Ligue des Champions qui a permis d'atténuer la déception. Ce soir, Marseille se déplace donc au Parc des Princes pour y affronter le Paris Saint-Germain. Bah oui, ça va être l'ambiance des grands soirs, Fabrice Hoguin. Je crois, Fabrice, que tu es déjà au Parc.
Oui, salut Christophe, salut Gaud, salut à tous. Effectivement,
salut les amis.
Je suis au Parc des Princes. Alors pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde, effectivement, puisque les portes ne sont pas encore ouverte, mais on le sent notamment à l'extérieur du stade, c'est en train de monter tranquillement la tension, la pression, et ça sent bon les festivités. On est en train de préparer quelques petits tifos, notamment au virage intérieur.
Ah, il va y avoir des tifos, il va y avoir de l'ambiance, de la musique, du son, des belles couleurs. Ça va être, c'est vrai, c'est le choc quand même de notre championnat. Roland, on a beau dire, on a cherché d'autres rencontres choc, mais celle-là dépasse toutes les autres, hein, depuis un moment maintenant. Hein.
Oui, mais c'est surtout intéressant, alors que Il y a quelques temps de ça, c'est très rare que ce soit au poste de premier et de deuxième. Donc il y avait quand même beaucoup plus d'écart souvent au classement, alors que là c'est 3 points d'écart. C'est sûr que c'est encore plus passionnant.
Alors, le Paris Saint-Germain, on a beaucoup parlé du Paris Saint-Germain ces derniers jours. Enfin, on en parle toujours énormément depuis des années maintenant. Mais enfin, la semaine a quand même été particulièrement chaude pour le Paris Saint-Germain, avec ses rumeurs, ses infos, cette situation et cette ambiance qu'on dit un peu délétère au sein du Paris Saint-Germain. Est-ce que ça peut avoir une influence sur le rendement sportif de Paris, qui est un peu moins impressionnant depuis quelques semaines? Et d'après tes infos, est-ce que ça va bien dans le vestiaire, comme le dit Christophe Galtier, comme il l'a dit en conférence de presse cette semaine?
En tout cas, il y a une volonté de faire front, de faire corps ensemble pour jouer ce match, pour avoir la meilleure performance possible. Il a été question énormément cette semaine de Kylian Mbappé, d'abord avec les envies de départ, ensuite avec les révélations du site Mediapart et la campagne de dénigrement qui aurait été menée par le Paris Saint-Germain en 2019 sur les réseaux sociaux contre des joueurs, notamment Kylian Mbappé. Mais c'est vrai que sur ces derniers jours, ces dernières heures, il y a la volonté notamment de Kylian Mbappé, hein, qui a donné un message sur ses réseaux sociaux en disant voilà, on est prêt pour demain. C'est ce qu'il disait hier, et c'est aussi les échos que j'ai eus. On a vraiment l'envie de faire un gros match contre Marseille, de mettre un petit peu toutes ces histoires extrasportives de côté pour être performant.
Alors, un petit mot sur la composition du PSG. Fabrice, est-ce qu'on a des infos sur l'équipe qui sera alignée ce soir par Galtier?
Oui, compo non officiel encore, mais la tendance, comme on dit hein, depuis hier, c'est un changement de système. Passage en 4-3-3 avec Donnarumma dans les buts, Achraf Hakimi dans le couloir droit. À gauche, Juan Bernat, Nuno Mendes est blessé, on le rappelle. Une défense axiale composée de Marquinhos et de Danilo Pereira en l'absence de Presnel Kimpembe en phase de reprise et de Sergio Ramos qui est suspendu. Milieu à 3 inédit a priori avec Vitinha, Verratti et Fabian Ruiz. Et puis devant, la triplette magique, Neymar, Messi qui fait son retour après deux matchs où il a été absent contre Reims et le Benfica, et puis évidemment Kylian Mbappé.
A priori c'est un 4-3-3 ça relance, ah non, ça y ressemble.
Ben oui, si tu veux un 4-3-3, ça veut, je dis pas que ça veut rien dire, mais tu peux le disposer de différentes façons. On sait très bien qu'il y a 4 défenseurs hein, devant un gardien de but, de je t'apprends rien, 3 milieux et 3 offensifs, c'est-à-dire les 3 montres. Après, savoir qui va faire quoi et qui va être positionné à tel ou tel endroit, ben on va le découvrir tranquillement. Mais je te dis, il y a plusieurs formules. Par exemple, tu peux, avec ces mêmes joueurs, être en 4-2-3. Hein.
Ok, bon, mais ça on verra tout à l'heure. C'est bien en tous les cas, Christophe Galtré serait content de toi. Parce que toi, tu parles de foot au moins, tu parles pas des affaires extrasportives. Hein, voilà, bon élève, Fabrice, t'as vu ça?
Ouais, effectivement, il aurait été très content parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'affaires extrasportives et on l'a bien compris en conférence de presse. Il aimerait bien qu'on parle un petit peu plus de terrain. Il en sera question hein, ce soir avant peut-être qu'on parle d'autre chose parce que l'actualité est très, très riche au Paris Saint-Germain.
Ouais, tu veux encore insister là-dessus sur le 4-3-3, Roland? Tu veux me dire comment tu les ferais jouer?
Bah, si ça
alors, vas-y, mais moi, ça m'intéresse, mais bien sûr.
Mais dans le sens que, bon, je ne passerai pas du jour au lendemain à des arrières latéraux qui ont quand même l'habitude d'avoir plus de soucis offensifs que défensifs. Et donc, je les protégerai, que ce soit Kimi d'un côté, avec un coéquipier devant eux. Donc, plutôt que de mettre un 4-3-3, je préférerais un 4-2-3-1. Les quatre défenseurs, ça tient bien compris comment. Les deux milieux défensifs, ben, ce sont les deux cousins germains, là, que Verratti et Vitinha. Côté gauche, Mbappé. Côté droit, Ruiz, gaucher devant Hakimi, pour que Ruiz puisse rentrer vers l'intérieur et ouvrir le couloir à Hakimi, mais de protéger Hakimi. Et ensuite, au lieu de mettre Mbappé en pointe, pour que Mbappé ait ses prises d'élan, je le préférerais à gauche. Et en pointe, je mettrais Neymar, avec en retrait de Neymar, Messi, qui pourrait faire des passes à Hakimi et des passes à Mbappé venant de derrière. Mais jouer avec les trois milieux, là, un dans l'axe, un à droite, un machin, un numéro 10 comme on jouait dans les centres de formation en retrait de deux attaquants, non, cette organisation-là trop lisible, je ne pense pas que Christophe va la mettre.
Et Kylian Mbappé pivot, ça lui va bien?
Non, c'est surtout conducteur du char à voile.
Conducteur du char à voile, voilà, ouais, un beau métier.
Là, il est mieux. Là.
En tout cas, messieurs, ça va être très intéressant de voir l'organisation tactique et on en rediscutera évidemment avec coach, parce que Christophe Galtier, tout au long de la semaine, il est un petit peu oscillé entre la défense à 3 et la défense à 4. Finalement, c'est la défense à 4 qui semble être retenue et ça va être aussi intéressant de voir l'animation offensive, où est-ce que les joueurs se placent en fonction des autres.
Et pour la défense, il a, je dirais, pas trop le choix. Ouais, là, il n'y a pas l'embarras du choix. Ouais. Parce que déjà que tu as enlevé un arrière central de ton organisation depuis 3-4 mois, ouais, tu as.
Et Phil Foden qui vient marquer pour Manchester City, libéré. Les Sky Blues, un contre supersonique. Kevin De Bruyne qui lance à Haaland, le duel qui est perdu par le Norvégien, mais la balle qui suit et qui arrive dans les pieds de Phil Foden. Foden a juste à côté de cette ligne qui a réussi à la mettre malgré le retour d'un défenseur de Liverpool. 1-0 pour City. On attend la conférence quand même parce qu'il y a des discussions.
Les Reds qui viennent protester auprès de l'arbitre. Je ne sais pas ce qu'il lui réclame.
Il réclame peut-être une faute justement entre Haaland et Alisson, parce qu'il y a duel entre Haaland et Alisson.
Ah, il tape dans le gardien.
Et ouais, le truc, c'est que Alisson a ses deux mains sur le ballon. La règle, c'est bel et bien les deux mains sur le ballon, en plus au sol. Donc normalement, on n'a plus le droit de toucher le gardien.
Et ouais, et il le heurte, et à ce moment-là, Alisson effectivement perd le ballon. Donc là, il peut y avoir.
Ça peut être largement refusé.
A priori. Alors, il demande le VAR justement.
Voilà, puisqu'on lui a indiqué hein, la règle, on le rappelle.
Je pense qu'il va être impressionné par la puissance d'Haaland et il va trouver ça jeu dangereux.
Ouais, Guardiola n'est pas content. Hein.
Oui, la règle, on l'appelle incident. Son oreille, on lui a dit, viens voir l'écran, il faut que tu viennes la voir, cette image, parce qu'on a un doute.
Viens voir le jeu dangereux.
Guardiola, il ne voulait pas que l'arbitre aille regarder le ralenti. Hein.
Viens voir le jeu dangereux.
Et en plus, on vient même ouais, au tout début de l'action, où il y a un duel entre Fabinho et Erling Haaland. Et déjà, au début de l'action, on a l'impression qu'il y a une petite faute sur le Brésilien quand même.
Il est tellement puissant, ce Haaland. Le but est
refusé. Exactement. Haaland, fautif, 0-0, toujours, désolé, messieurs.
On avait anticipé.
Et Guardiola qui fait son signe. Je la regarde, là. Il n'est pas content. Ah ouais, mais bon, il y a faute. Hein. Et oui, il y a faute, monsieur Guardiola. 0-0, donc, entre Liverpool et Manchester City. Roland, tu voulais ajouter un truc, non?
Non, on était en train de discuter des arrières centraux. Il reste deux arrières centraux dans l'effectif de Paris Saint-Germain, dont un qui est un arrière central de dépannage. Donc là, n'oublions pas qu'il y a cette traditionnelle bataille du milieu. Bataille du milieu, l'Olympique de Marseille, c'est quatre milieux, donc cette ligne de quatre dans le 3-4-2-1, et deux numéros 10. Donc c'est pratiquement six joueurs pour gagner cette bataille du milieu, qui sera pour moi la bataille à gagner pour pouvoir gagner la guerre. Donc c'est pas évident pour le Paris Saint-Germain de la gagner dans l'organisation de Marseille actuellement. Le point faible ou le point moins fort pour moi, ça reste les trois arrières centraux de Marseille.
Eh bien, nous verrons ça tout à l'heure. Réponse à partir de 20h45. Merci Fabrice, à tout à l'heure. Sachez que dans Bartoli Time, il y aura des invités tout à l'heure, des anciens joueurs marseillais et parisiens. Un certain Rai, ça te dit quelque chose, Roland?
Petit
joueur brésilien qui a égayé les nuits parisiennes. Et puis Benoît Chéroux, côté marseillais, seront les invités de Marion Bartoli à partir de 19h, dans un gros quart d'heure maintenant. 0-0 entre Liverpool et Manchester City, un partout entre Monaco et Clermont. On va y retourner dans quelques instants au stade Louis II pour suivre la fin de ce match. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Foot.
Christophe Cessieux.
Un vainqueur au stade Louis II, Monaco ou Clermont. Pour l'instant, les deux équipes sont toujours à égalité, un partout.
Ouais.
Avec Roland, tu penses qu'il y aura un vainqueur? Et tu miserais sur qui, toi?
Pas impossible. Attention sur un contre de Monaco si Clermont veut à tout prix gagner ce match.
Le corner pour Clermont qui n'a rien donné, messieurs.
Non, et derrière la frappe de Seydou qui a fini dans les tribunes des ultras monégasques, toujours un partout. Donc 83e minute de jeu, mais la deuxième mi-temps ne va que dans un seul sens, hein. 73% de possession de balle pour les Clermontois qui insistent et qui se projettent et qui ont failli passer devant par l'intermédiaire de Cham et de Alevina notamment, mais ça n'a pas été cadré.
Et notamment,
on pensait que la défaite en Coupe d'Europe était un accident de parcours qui n'allait pas se reproduire, mais là on sent les monégasques un peu dans le dur quand même ce soir. Évidemment, ils ont été réduits à 10 rapidement, hein.
Et donc, peut-être dans le dur physiquement, c'est ce que j'allais dire.
Ils ont joué jeudi, l'accumulation des matchs, ça commence à peser.
Il y a eu un seul changement dans le 11 par rapport à ce qui avait été fait jeudi à Trabzon face à Trabzonspor. On rappelle que Monaco est à 10 depuis la 17e. Ils sont à la fin d'un long marathon, on enchaînait les matchs tous les 3 jours et forcément ça tire un petit peu la langue. 18 tirs pour Clermont, 4 pour Monaco, mais attention avec un contre. Ismaël Jacob sur par les coachs. Jacobs dans la surface de réparation, côté gauche, la frappe détournée par Mauridio en corner. Elle était belle, elle était croisée cette frappe. Et Mauridio qui arrive à détourner ce ballon. Et bien c'est la seule incursion quasiment de la seconde période pour l'AS Monaco. Ça a bien failli faire mouche et ça va offrir un petit peu de répit à l'AS Monaco. On va prendre le temps, le pronostic était presque bon. On va prendre le temps d'aller tirer ce corner de la droite vers la gauche pour Caio Henrique. Et puis pourquoi pas une cartouche. Il y a Axel Disasi qui monte, il y a Guillermo Maripane qui est bon de la tête, pourquoi pas un Brel Embolo également. Maxime, ça peut être une opportunité, le public commence à pousser.
Il y a de la taille, en tout cas à l'initiative de ce contre, c'est Youssouf Fofana qui fait forte impression encore une fois, lui qui va sans doute préparer ses valises pour le Qatar. Ouais, et Monaco c'est l'équipe qui marque le plus de la tête, c'est dans les 5 grands championnats. Attention justement, Maripane qui a visé, qui prend le ballon, c'est contré, ça ira en corner. Ouais. Ce sera un corner, nouvelle tentative pour les Monégasques, mais cette fois-ci de l'autre côté, de la gauche vers la droite, en regardant le but de Mauridio. Et bien Caio Henrique va quand même parcourir tout le stade pour aller frapper ce corner, lui qui a déjà délivré 5 passes décisives cette saison. Il est 3ème dans le classement Ligue 1, juste derrière Messi et Neymar qui en sont à 7. Va-t-il chercher sa 6ème passe décisive? En tout cas, tu avais bien vu, coach, c'est bien Guillermo Maripane qui a été visé et qui a touché le ballon, mais sa tête a été
marquée de temps en temps assez régulièrement. Ça fait un moment qu'il n'a plus marqué.
Il a marqué deux fois cette saison en Ligue 1 et également une fois lors du tour préliminaire face au PSV Eindhoven.
C'est parti, de la gauche vers la droite, il est sortant. Ce corner au second poteau vers Mbolo, il y avait eu Disasi, même il y avait eu une petite poussette. C'est finalement capté tranquillement par le gardien clermontois. Moridio, 85e minute de jeu, un partout entre l'AS Monaco et Clermont. On se demandait, coach, que doit faire Clermont en cette fin de match, parce qu'un point à Monaco, c'est pas si mal. D'un ben côté, il oui. y a peut-être trois points à aller chercher, donc
ouais,
on ne sait
bon,
pas trop.
Tu peux aller les chercher avec un petit peu de prudence. Pour moi, la prudence, là, sur des coups comme ça, ça fait partie de l'intelligence.
Okay. Clermont qui joue le maintien, on le rappelle, et qui pour l'instant tient un point en 86 minutes de jeu, un partout entre Monaco et Clermont.
Pas mal les Clermontois depuis le début de la saison, hein, quand même. Hein. Donc voilà, et ce soir, bah, il donne une rude adversité à l'AS Monaco. Liverpool-Manchester City, on pensait que les Citizens avaient réussi à trouver la faille tout à l'heure avec ce but qui a donc été refusé pour une faute flagrante de Haaland sur le gardien de Liverpool. C'est un match assez équilibré quand même, Salim. Hein.
Ouais, et une intensité de dingue avec des opportunités, j'insiste, de part et d'autre. D'ailleurs là, je parle d'intensité, le premier carton jaune dans cette partie, seulement la 63e. Comme quoi, il y a des duels, mais des duels licites. Carton jaune pour Fabinho, l'ancien Monégasque, suite à une faute au milieu de terrain. Mais je le disais, le but refusé et des occasions aussi pour Liverpool. Deux énormes occasions qui ont encadré ce but refusé. D'abord un duel à 1 contre 1 incroyable entre Salah et Ederson, remporté par le gardien brésilien qui a réussi à mettre cette balle juste à côté. Et puis quelques minutes après ce but refusé, c'est Salah qui réussit à trouver au second poteau Diogo Jota, le mètre 78 du Portugais, dont la tête va passer juste à côté de la cage d'Ederson. C'était là aussi une très grosse occasion pour les hommes de Jurgen Klopp, qui vont peut-être être mis en danger avec Gundogan qui va réussir à servir Haaland. Haaland sur son pied gauche, oh la parade, magnifique parade d'Alisson qui est allé très vite sur sa droite au sol pour réussir à dégager cette balle. Haaland qui ne marque toujours pas, lui qui en est à 10 matchs où il marque au moins un but, 10 matchs consécutifs avec City. Et bien pour l'instant, le 11e match, il n'y arrive pas, Liverpool, et Alisson arrive
il
toujours à l'embêter.
60 minutes, t'inquiète.
60 minutes, non.
27, mais pour lui c'est suffisamment et assez. Oui, c'est assez effectivement pour Erling Haaland. Toujours 0-0, ouais. Mais encore une fois de l'intensité de dingue dans ce match.
C'est quand même frustrant, hein, que Haaland ne participe pas à la prochaine Coupe du Monde, messieurs, hein, parce que voir un tel joueur, une telle qualité, on aurait bien voulu le voir avec son équipe nationale, capable de jouer les premiers rôles.
Bon, on a connu des joueurs comme ça, leur pays était pratiquement impossible qu'ils puissent la gagner.
En Angleterre, c'était souvent le cas avec Ryan Giggs, par exemple.
Exactement,
avec le Pays de Galles, qui
n'avait
jamais eu plus fait affaire.
On a connu même Bale.
Gareth Bale.
Ouais.
Avec le Pays de Galles, Et oui, malheureusement, il n'y aura pas de Erling Haaland. Donc, à la Coupe du Monde, la Norvège n'est pas qualifiée. De toute façon, la Norvège, je crois, avait dit qu'ils n'iraient pas au Qatar. Ça ne leur plaisait pas du tout.
Ouais, c'est vrai.
Hein, donc,
Et une précision sur Gareth Bale, puisque lui, malgré tout, il joue toujours et il veut aller à la prochaine Coupe du Monde, hein, puisque le Pays de Galles, notamment, est dans le groupe de l'Angleterre et voudrait pourquoi pas affronter l'Angleterre pour le mondial. Tiens.
Ah, c'est sûr qu'il aurait mieux fait de jouer au rugby. Là, il aurait pu disputer des matchs internationaux. Hein. Parce que le Pays de Galles, voilà, ça, c'est une grande nation du rugby, pas encore du football. Merci, Salim, à tout à l'heure. Donc, toujours 0-0 entre Liverpool et Manchester City. Monaco, Clermont, là, on se rapproche clairement de la fin du match. 2 minutes encore à jouer.
Et pas mal de tension, ça chauffe.
Dis donc, t'as qu'à chambrer, toi.
Non, mais on se rapproche clairement.
Clermont.
Bravo.
Bon, les gars, ça donne
échange d'amabilité, là. des mots doux entre Vanderson et Neto Borges. Ouais, ça s'agace un petit peu en cette fin de match.
Il y a de la tension. On a vu quelques semelles traîner, là. C'est Cham qui a mis une semelle sur Vanderson. Le Monégasque qui était très remonté, qui s'est fait calmer par son coéquipier Youssouf Fofana. Ça donne un long ballon dans la surface clermontoise de la part de Vanderson. Est-ce que ça a été touché? Non. Ce sera un 6 mètres. Un renvoi pour les Clermontois et pour le gardien Moridio qui s'empresse de le jouer. Ça répond un petit peu à notre question tout à l'heure. Que veut Clermont peut-être? Eh bien, que Clermont veut venir chercher 3 points. Ici, on rappelle que Clermont reste sur 2 succès en Ligue 1. Jamais Clermont dans son histoire n'a gagné 3 matchs de suite en Ligue 1. Évidemment, l'histoire, elle est courte puisqu'elle a commencé la saison dernière, mais ça voudrait dire quelque chose. Et un autre chiffre qui est parlant quand même, c'est que Clermont, à la trêve l'année dernière, avait 17 points. Eh bien, ce soir, avec le point du nul, ils en ont déjà 17. Preuve du très bon début de saison des hommes de Pascal Gastien. Il va falloir se méfier, pourquoi pas, des contres, mais ils ont le ballon encore, les Clermontois.
Clermontois qui en avait pris 4 hein, la saison passée ici. 4-0, là, ça fait un partout. On entre dans dans la dernière minute du temps réglementaire. Un partout, but d'Embolo à la 31e, égalisation d'Andrich à la 54e. Les Monégasques qui sont réduits à 10 depuis la 17e, et le carton rouge de Mohamed Camara. Le ballon dans les pieds de Jim Alevina qui essaye de mettre un petit peu de rythme et d'aller chercher sur la gauche Neto Borges. Il va peut-être pouvoir mettre un ballon piqué avec Jodel Dosudo au but, qui en dévie la rentrée dans la surface de Alevina qui s'effondre. Il n'y a rien et ça repart dans l'autre sens avec Fofana qui a du champ devant lui. Là, Ismaël Jacobs à gauche qui fait l'effort. La course de Jacobs, il va plus vite que Seydou. Jacobs qui est passé, on réclame une faute de Seydou. Monsieur Rudy Buquet ne signale rien et le jeu repart dans l'autre sens avec Elbassan Rachani.
Ça a été bien défendu, ça a été bien défendu. Il s'est jeté, Jacobs, ça s'est vu puisqu'il s'est immédiatement relevé. Donc pas de faute et 3 minutes de temps additionnel, messieurs, dans cette partie. Encore une faute au milieu de terrain, encore un carton distribué par Rudy Buquet. Ça se tend vraiment dans cette fin de partie.
Ouais. Et Rudy Buquet qui calme tout le monde parce que là, les Clermontois ont voulu rapidement jouer leur coup franc. Rudy Buquet a voulu reprendre en main le tempo, donner son carton jaune à Crépin Diatta, attendre que tout le monde se calme et laisser place au jeu. Il reste 2 minutes 30 dans le temps additionnel ici à Louis II. Toujours un partout et le ballon dans les pieds des Auvergnats qui vont peut-être aller chercher 3 précieux points dans ces dernières secondes.
Ils font circuler avec Offrier. Et juste pour revenir sur l'action d'avant, c'est dingue ce que fait Youssouf Fofana à la 92e. Il a remonté tout le terrain avant de servir Jacob, sa grande enjambée. Il a réussi à semer tout le monde alors qu'il est très très sollicité depuis le début de saison. Cham pour les Clermontois. Monaco est clairement en position défensive. Il reste 2 minutes dans le temps réglementaire avec le ballon en défense centrale. On va s'appuyer maintenant au milieu de terrain sur Dosou l'appui sur Alvina. Il est plein axe à 30 mètres du but. Il va reculer. Tous les Monégasques sont en situation défensive. On a trouvé Cham entre les lignes sur la gauche maintenant pour Neto Borges, le latéral brésilien en retrait vers Coffry. On va être obligé peut-être de refaire un tour. Non, on insiste sur ce côté gauche avec Cham, la petite talonnade, la jolie talonnade même pour Borges. Faut la mettre dans la surface. Le centre vers Alvina. Cette action qui se poursuit. On fait tourner du côté des Clermontois. Alvina dans la surface de réparation côté gauche. Il veut aller provoquer l'arrive. Il ressort sur Cham qui va retrouver peut-être Neto Borges.
Et Neto Borges qui centre en première intention. C'est bien parti la tête. Oh, elle était claquée. C'est Vitesca qui était montée pour l'occasion. Alexander Lubel était battu, mais le ballon n'était pas cadré. Il a remis d'où elle venait pourtant. Il avait bien claqué. Elle était puissante celle-ci. Et le beau centre au départ de Neto Borges. Elle passe quand même aller à un bon mètre de la cage d'Alexander Nubel. Il va rester quoi? 1 minute 15 dans le temps additionnel des Monégasques qui pour l'instant tiennent le point du nul.
Ouais, gros frisson à Louis II. Et on a vu surtout l'attitude des Clermontois, baisser la tête et mettre le genou à terre, dégoûté de voir cette peut-être ultime situation passer juste à côté. En tout cas, ils pourront satisfaire au moins du contenu les hommes de Pascal Gassien, même s'ils étaient en supériorité numérique quasiment toute la rencontre. Ils ont proposé du jeu, ils ont dominé cet AS Monaco qui de son côté vise les joutes européennes. Une touche pour Monaco dans le camp Clermontois. Il reste 45 secondes à jouer. Caio Henrique ne va pas se presser d'effectuer cette remise en jeu. Le Brésilien qui est à 50 mètres de la cage, qui va repasser par sa charnière avec Maripane.
Maripane qui a le temps de lever la tête pour mettre un long ballon dans la surface. On vise Crépin Diatta, c'est Coffrier qui s'impose. Mais au second ballon à la retombée, Youssouf Fofana qui est toujours là, lui qui rêve du mondial. Il en a fait un objectif malheureusement pour lui. Il perd la balle et le long ballon derrière de Johan Magnin qui essaye de lancer à Levina à la vitesse. C'est Dizazi qui revient, lui qui a arrêté du brassard de capitaine. Mais il glisse derrière. Le ballon va revenir dans les pieds des Clermontois qui auront sans doute la dernière opportunité.
Ah, est-ce qu'il y aura une faute sur Alvina? En tout cas, lui il joue au sol. Rudy Buquet va laisser jouer. Neto Borges est passé côté gauche de la surface de réparation. Le centre en retrait. La frappe de Dosu contre Crépin Nubel, c'est pas terminé. Le ballon qui traîne dans la surface. Il y aura une faute finalement sur Caio Henrique. Mais quelle drôle de phase de jeu avec Alvina qui jouait au sol, Dizazi qui essayait de récupérer ce ballon et Borges qui est arrivé et qui l'a chippé finalement. Grosse situation encore une fois sur la cage. On a dépassé le temps additionnel. Il y aura une faute tirée, coup franc tiré par les Monégasques dans leur propre surface de réparation. Et donc Maxime, ça va se terminer dans quelques secondes sur ce score de 1 partout. Mais ils auront souffert jusqu'au bout les Monégasques.
Ouais, avec cet arrêt là encore une fois d'Alexander Nubel dans les derniers instants, et il a eu très chaud parce qu'il se saisit pas du ballon, il le remet face au but et Jodel Dosu était pas loin de la reprendre une nouvelle fois. On vient de sortir du temps additionnel, un partout entre Monaco et Clermont. Les Monégasques qui étaient sur 5 victoires consécutives en Ligue 1, et c'est terminé, partage des points logique. Je ne sais pas si on peut le dire, en tout cas les Clermontois ont très clairement dominé cette rencontre. Monaco qui a été réduit à 10 dès la 17e minute de jeu, le rouge de Mohamed Camara, le but d'Embolo, l'égalisation de Andrich, un partout
ça
prenne, entre Monaco et Clermont.
Quand même la remontée de Monaco qui était quand même pas mal sur ces derniers temps. Je trouve dommage de perdre 2 points comme ça à domicile, mais bon, c'est leur faute.
Exactement. Donc Monaco qui laisse échapper deux points précieux dans sa remontée vers les sommets de la Ligue 1. Merci Roland, merci salut, Maxime salut. Et Valentin.
Bonne soirée messieurs, salut, bonne soirée.
Bonne fin de soirée en principauté. Liverpool Manchester City, un petit point avec toi Salim. Toujours rien de marqué, c'est pas possible.
Eh oui,
pas
il reste possible, encore Salim. 18 minutes. Si, il faut y croire, ça peut arriver. Surtout il va y avoir des changements avec notamment l'homme aux 100 millions d'euros, Darwin Núñez, l'attaquant uruguayen qui va entrer. Donc beaucoup d'argent sur la pelouse, ça peut amener des buts, qui sait.
Sait-on jamais. Et on vivra la fin de ce match avec toi dans un instant dans Bartoli Time qui arrive avec Jean-Christophe Drouet et Marion Bartoli. Plein d'invités, Braille et Chirou pour évoquer évidemment le choc de ce soir entre le PSG et l'Olympique de Marseille. Rendez-vous 20h45. Bonne fin de soirée. Régalez-vous sur RMC. Ciao.